Courbons la tête maintenant pour un instant de prière. Très bienveillant Père, nous te remercions ce matin du privilège que nous avons d'être ici dans cette salle. Nous préparons à affronter le dénouement de cette journée. Seulement, nous ne savons pas ce que cette journée nous réserve, mais nous savons qui détient cette journée. Ainsi, nous prions que celui qui détient aujourd'hui, demain et toute l'éternité nous bénisse aujourd'hui alors que nous sommes assemblés en son nom, afin de savoir comment mieux vivre pour le servir. C'est là toute notre intention, Père. Dieu qui connaît nos cœurs sait que c'est la vérité. Nous nous remettons à toi avec la portion de cette journée qui reste à venir à ton service. Au nom de Jésus-Christ, amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à mon auditoire visible et aussi à mon auditoire invisible qui est en ligne avec nous ce matin d'un bout à l'autre du pays. C'est un grand privilège pour moi de venir ici et de parler de ce sujet vital ce matin. Pour l'auditoire visible, vraiment c'est un peu déroutant parce qu'il y a juste devant moi, il y a des rideaux, alors il faut que je parle à ma droite et à ma gauche. Et à l'auditoire invisible, je dirais qu'il y a la salle à ma droite et le gymnase à ma gauche. Et moi, je suis sur la plateforme avec les rideaux ouverts entre les deux, c'est-à-dire à ma droite et à ma gauche. Et nous avons un surplus de gens ce matin. Il y en a dans la salle et dans le gymnase et aussi à l'église là-bas, à l'intersection de la 8e rue de la rue Penn. Et aux endroits supplémentaires, c'est par le système téléphonique que nous sommes reliés aux autres endroits. Nous avons passé des moments extraordinaires dans le Seigneur et nous sommes dans une grande attente pour la réunion ce matin. Et maintenant, comme la réunion de ce soir marquera la fin de cette campagne de 4 jours, eh bien certainement que nous invitons tous ceux qui le pourront à venir. Nous croyons que le Seigneur va nous donner un grand point culminant ce soir en faisant quelque chose d'extrêmement extraordinaire au point de guérir tous les malades et de faire les choses glorieuses qu'il fait généralement. Et nous sommes dans une grande expectative pour ce soir. Le public est cordialement invité, tout le monde, toutes les églises, de toutes les dénominations, vous n'avez même pas besoin d'être chrétien. Certainement que nous invitons les pécheurs à entrer, à s'asseoir parmi nous. Et nous faisons vraiment de notre mieux pour leur enseigner la voie du Seigneur afin que nous y trouvions la vie. J'espère que l'auditoire ne sera pas tendu. Et je mets ma confiance en Dieu que moi-même je ne serai pas tendu, car j'ai passé une nuit très pénible, beaucoup de tensions nerveuses, car je réalise que les choses que je dirai ce matin seront retenues contre moi au jour du jugement. Aussi, je n'arrivais pas à dormir. Et je sais que si je ne les dis pas, ce sera retenu contre moi au jour du jugement. Alors, voilà ce qui rend la chose difficile. Ça ne s'explique pas. Et maintenant, ce matin, voilà le grand sujet que nous devons discuter, le mariage et le divorce. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de l'apporter à l'école du dimanche, c'est pour que nous puissions en parler et prendre tout notre temps plutôt que prêcher un sermon là-dessus. C'est un enseignement tiré des Écritures. Et j'aimerais dire que si un prédicateur ou des prédicateurs, quelque part, si jamais cette bande leur tombait entre les mains, si nous laissons sortir cette bande, je ne sais pas ce que l'Église fera à ce sujet. Je demande à Frère Fred d'aller voir le conseil de l'Église avant de laisser sortir cette bande. Quant à ceux d'entre vous, d'un bout à l'autre du pays, qui ont des magnétophones, s'il vous plaît, ne laissez pas sortir la bande avant d'avoir eu des instructions de frère Sotman à ce sujet. Et si on devait la laisser sortir et qu'un de mes frères dans le ministère ou un chrétien quelque part ne soit pas d'accord avec les choses que je dis sur ce sujet, J'espère que vous ne critiquerez pas cela. Si vous ne le comprenez pas de la façon dont je l'enseigne, eh bien, c'est votre droit en tant que ministre, en tant que berger. Et je respecte ce que vous croyez. Il y a deux grandes écoles sur le sujet. Et s'il y a deux points de vue, deux questions qui s'affrontent, il faut soit que l'un des deux soit juste ou qu'aucun des deux ne soit juste. Donc nous allons essayer de regarder la parole de Dieu ce matin pour régler cela. À mon avis, si c'est une question biblique, certainement que la Bible a la réponse. Et maintenant, juste avant d'aborder ce sujet, avant que je prie sur la parole, je voudrais exprimer à chacun de vous, à vous les chrétiens en particulier, que je voudrais que vous priez pour moi ce matin. Et tous ceux de l'auditoire invisible qui sont à l'écoute ce matin, priez pour moi. Parce que je veux être honnête et dire la vérité. Alors nous sommes conscients qu'en faisant ces déclarations, il y aura quelqu'un, ne serait-ce qu'une personne, qui s'y accrochera comme si c'était une question de vie ou de mort. Beaucoup d'entre vous repartiront d'ici en croyant. Évidemment, il se peut que beaucoup d'entre vous, non. Seulement, je sais que dans mon ministère, il y a des gens qui viennent m'écouter, écouter ce que j'ai à dire. Eh bien, ils sont assis ici même ce matin, internationalement, de beaucoup d'endroits des États-Unis, du Canada, d'outre-mer. Et vous pouvez imaginer la tension qui est mise sur vous de savoir que la destination éternelle de cet homme-là est entre vos mains parce qu'il va s'accrocher à ce que vous dites. Par conséquent, Dieu me demandera des comptes. Alors, je veux aborder ceci aussi sincèrement que possible. Maintenant, je demande à nos sœurs, et j'ai changé quelques-uns des mots que j'avais pour pouvoir parler devant elles. Billy a dans sa poche ce matin certaines choses qui ne pouvaient pas être dites devant un auditoire mixte. Il y en a certaines que je vais probablement dire, il vous faudra comprendre. Prenez-le comme venant de votre frère. Au mieux de ma connaissance, si vous étiez assise dans le cabinet d'un médecin, vous l'écouteriez, il serait obligé de vous parler en termes très clairs. Et vous, les jeunes filles et les jeunes hommes, je ne voudrais pas que certains d'entre vous repartent avec une impression fausse. Je veux que vous croyiez et que vous restiez tranquillement assis. Souvenez-vous, la vérité doit être énoncée comme vérité. Et maintenant, sans doute que beaucoup d'entre vous seront en désaccord avec ce qui va être dit, mais je vais vous le prouver par la Bible. Et puis je crois que si vous voulez simplement être respectueux et écouter, alors vous comprendrez mieux et vous aurez une meilleure conception de ce que je martèle sans cesse depuis le début. Je crois que ceci va l'expliquer, et je l'espère. Alors, il se peut que ce soit un peu long. Nous prendrons une heure et demie ou peut-être plus, je ne sais pas combien de temps cela va prendre. Et maintenant, j'aimerais encore dire qu'en ce temps-ci, en sachant que les gens s'accrochent à vos paroles, ils s'accrochent à celles de leur pasteur, et bien sûr, j'étais moi-même pasteur, et ils s'accrochent aux paroles d'un pasteur comme si c'était une question de vie ou de mort. Ils s'accrochent aux paroles de leur prêtre comme si c'était une question de vie ou de mort. Et bien sûr, le pasteur, peut-être qu'il fait tout ce qu'il peut. Il enseigne ses fidèles exactement comme lui a été enseigné au séminaire. Sans doute que c'est pareil pour le prêtre. Dans les différentes religions où il y a des prêtres, bien entendu, le pasteur, en fait, c'est un prêtre, c'est un intercesseur. Alors si le prêtre, avec tout ce qui lui est enseigné au séminaire, dans les monastères, cet homme est profondément sincère, il répète exactement ce qui lui est enseigné. Eh bien, moi, je n'ai aucune expérience de séminaire, aucune expérience de monastère, et je n'ai rien contre ça, pas du tout. Par contre, j'ai une vie très, très étrange. J'ai été appelé alors que je n'étais qu'un petit garçon, et là, un signe visible, audible, m'a été donné. Une colonne de feu dans un buisson. À l'âge de 7 ans, juste ici sur Utica Pike, mon père travaillait pour M. O.H. Wathen, qui est décédé dernièrement. Et vous avez lu le livre, vous connaissez l'histoire. Et depuis ce moment-là, à la rivière là, elle est apparue de façon visible devant les gens. Et à l'heure actuelle, elle a eu sa photo prise bien des fois. Elle est accrochée là à Washington, D.C., tout droit réservé, dans la salle des arts religieux, comme étant le seul être surnaturel qui ait jamais été photographié avec preuve scientifique. La même colonne de feu, exactement la même apparence qui a fait sortir Israël d'Égypte. Je crois que c'est Jésus-Christ, sous forme d'esprit, dans sa fonction de fils de Dieu. En effet, il a été appelé fils de Dieu quand il est venu la première fois. Maintenant, il est appelé fils de Dieu. Dans le millénium, il sera fils de David. Il est venu en tant que fils de l'homme, comme prophète, selon ce qui avait été annoncé à son sujet. Maintenant, il est fils de Dieu dans le surnaturel. Dans le glorieux millénium à venir, il sera fils de David, assis sur le trône de David. Tous ceux qui étudient la Bible savent que c'est une promesse divine que Dieu a faite à David, qu'il allait susciter son fils pour le faire asseoir sur son trône. Et maintenant, à cause de mon ministère singulier, étrange, on m'a traité de tous les noms, depuis Dieu jusqu'à un démon. Et c'est toujours comme ça. C'est ce que cet archevêque de l'Église catholique me disait l'autre soir là-bas, lors de cette discussion. Il disait, Frère Branham, Jean-Baptiste s'est clairement identifié dans les Écritures comme celui dont avait parlé le prophète Isaïe. Il a dit, « Votre ministère est clairement identifié dans l'Église. » Il a dit, « Les luthériens sont dans la Bible. » Il a dit, « Les luthériens ont reconnu Luther, les wesleyens reconnaissent Wesley, mais les pentecôtistes, eux. » Il a dit, « Ils sont errants, ils ne savent pas où aller. » Et j'ai dit, « Monsieur, j'apprécie cela. C'est là que l'Esprit est descendu sur cette dame qui ne m'avait jamais vu. Sa femme, et il a parlé, c'était sa sœur, et il a parlé et identifié les mêmes choses. Maintenant, pour être honnête, face au message que j'apporte ce matin, je ne sais pas. Je lui ai dit, « Monsieur, je ne pourrais pas dire ça, c'est une déclaration très forte, ça semble être le cas. Il y a une chose que je sais, c'est qu'il s'est passé quelque chose. C'est certain. Toutes ces choses, c'est tout simplement comme elles ont été prouvées par la science et démontrées maintes et maintes fois partout dans le monde. Ça ne peut pas être qu'un mythe, c'est la vérité. Qu'est-ce que c'est? Permettez-moi de vous le confesser avant que je vous parle ce matin. Je ne sais pas. Et jamais je n'oserais m'avancer en quoi que ce soit avant d'avoir entendu quelque chose de celui qui m'a parlé dans le passé et qui m'a dit ces choses. Souvenez-vous, notre Seigneur Jésus-Christ ne s'est jamais identifié comme le Fils de Dieu. Il a dit, « Tu l'as dit, c'est pour ça que je suis né. » Et tout, mais il ne s'est jamais identifié. Et donc, c'était cette colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël, c'était le Seigneur Jésus-Christ sous forme d'esprit. Croyez-vous cela? Le Logos, qui est sorti de Dieu. Et puis, quand il était sur la terre, il disait, « Je viens de Dieu et je vais à Dieu. » Nous le savons tous. Et après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, Saul de Tarse se rendait à Damas pour persécuter les chrétiens parce qu'ils enseignaient des choses qui allaient à l'encontre de l'enseignement qu'eux avaient reçu. C'était un vaillant combattant sous Gamaliel, un des docteurs remarquables de l'époque, de leur école, leur monastère. C'était un grand homme et un officier dans l'Église. Et là, une grande lumière, la colonne de feu, de nouveau, l'a jetée à terre au milieu du jour. Et une voix dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Maintenant, si vous remarquez, quand Paul, Saul, s'est relevé, il a dit, « Seigneur, qui es-tu » Or, ce jeune homme était juif. Il n'aurait certainement pas appelé Seigneur s'il ne s'était agi de quelque chose représentant Dieu. Donc, il s'agissait de la même colonne de feu. Comme Jésus l'avait dit, « Je vais à Dieu. Je suis venu de Dieu et je retourne à Dieu. » Il était là, revenu sous la forme d'une colonne de feu de nouveau. Il a dit, « Je suis Jésus, que tu persécutes. » Et il t'est dur de regimber contre les aiguillons. Et nous comprenons que quand l'apôtre Pierre, qui a reçu les clés pour bâtir l'Église, nous voyons qu'il était en prison et que cette même colonne de feu a passé à travers les barreaux, a ouvert les portes de la prison et a fait sortir Pierre mystérieusement, sans même déranger les gardes. À mon avis, c'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et puis, on reconnaît toujours quelque chose par sa nature. Tout se reconnaît à sa nature, au fruit qu'il porte. Et je vous demande d'observer le genre de fruit qu'elle porte, cette lumière, qui est Dieu, puisqu'elle concorde toujours avec la parole de Dieu et qu'elle démontre la parole de Dieu, elle prêche la parole de Dieu, et Dieu prouve que cette parole est vraie matériellement devant vous. Forcément, il doit y avoir quelque chose derrière tout ça. Des gens m'ont appelé un prophète. Je ne m'appelle pas moi-même prophète, parce que je serais placé en garnison de dire cela. Mais je peux dire ceci, que le Seigneur m'a permis de voir des choses à l'avance, d'annoncer des choses qui sont arrivées, qui vont arriver, qui sont en train d'arriver. Et ça n'a pas failli une seule fois sur les dizaines de milliers de fois. Tout ce qu'il a dit est arrivé. Nous le savons tous. S'il y a une personne dans cet auditoire visible ce matin, ou n'importe où, qui peut dire, ou ça a failli une seule fois, vous êtes libre de vous lever et de le dire. Mais si tous savent que chaque fois, sur les milliers de fois, ça a été parfaitement juste, dites Amen. Ainsi, ce serait la même chose partout dans le monde. Quelque chose est sur le point d'arriver. Dieu n'envoie jamais ces choses sans qu'il y ait un but là-derrière. Je pensais justement, j'ai mis ça sur mes notes, je porte ce matin une paire de boutons de manchette. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de cette vedette de cinéma, Jane Russell. Sa mère était pentecôtiste. Et Danny Henry est son cousin, germain, l'enfant de la sœur de sa mère. Il était baptiste. Il se trouvait à une réunion des hommes d'affaires à Los Angeles, en Californie, il y a 2 ans. Je venais tout juste d'avoir fait des déclarations très puissantes, très énergiques. Et voilà que le surveillant, un des surveillants généraux des Assemblées de Dieu, est descendu pour venir sur l'estrade de l'endroit où il était assis au balcon, et il a dit, « Je ne crois pas que Frère Branham parlait sérieusement. » J'ai dit, « Je suis bien obligé de parler sérieusement, monsieur. C'est ainsi dit le Seigneur. » Et alors, c'était au sujet de l'Église de cet âge. Et à peu près à ce moment-là, ce jeune homme, qui est un homme d'affaires, son frère, était là en train de filmer pour la télévision ce matin-là. Son autre frère est responsable du service des routes en Californie. Et Danny Henry, à la fin de la réunion, s'est avancé. Il est venu sur l'estrade comme ceci, avec tous les hommes qui étaient assis. Il est venu m'entourer de ses bras. Et il a prononcé ces paroles. « Frère Branham, j'espère que ceci n'a pas l'air sacrilège. » Mais, disait-il, on pourrait faire de cela le 23e chapitre de l'Apocalypse. Et il n'y a que 22 chapitres dans l'Apocalypse. Il a dit, j'espère que ça n'a pas l'air sacrilège. À peine avait-il dit ça. Maintenant, ce garçon était baptiste, il ne connaissait rien du surnaturel. Avec ses bras autour de moi, il s'est mis à parler dans une langue inconnue. Et quand il a eu fini de parler dans une langue inconnue, il y avait une femme corpulente, au teint foncé, assise juste devant moi. Elle s'est levée. Elle a dit, « Ça n'a pas besoin d'interprétation. » Elle a dit, « Je suis de Shreveport, en Louisiane, ou de Baton Rouge, en Louisiane. » Elle a dit, « C'est clairement du français. » Victor Leduc, un Français, qui était assis là-haut, lui aussi, il a dit, « Certainement, je suis français. » Et c'était du français, parfaitement. J'ai dit, « Attendez une minute. Écrivez ce qu'il a dit, et vous, écrivez ce qu'il a dit. » Avant de dire quoi que ce soit, écrivez ce que vous dites et faites-moi voir vos notes. Et ainsi donc, l'un et l'autre, ils l'ont mis par écrit, c'était identique, même la ponctuation était la même. Et puis, à peu près au même moment, alors qu'ils apportaient leurs notes, un jeune homme blond, de belle prestance, s'est avancé du fond de la salle. Il n'y avait pas assez de place pour qu'il puisse s'asseoir, il était debout au fond, il s'est avancé, il a dit, « Une minute, moi aussi j'aimerais déposer ce que j'ai noté. » Il a dit, « Je suis l'interprète français à l'ONU. » aux Nations Unies. Il a dit, j'aimerais remettre ce que j'ai noté. Et voilà que les 3 notes étaient exactement pareilles, en français. Et voici ce qui a été dit. Ce sont les notes originales, ce qui a été noté sur le moment. Celle-ci, c'est la note de Danny lui-même qu'il avait mise dans sa poche. Évidemment, ça a été publié chez les hommes d'affaires chrétiens. Parce que tu as choisi le sentier étroit. Le chemin plus difficile, tu y as marché de ton propre choix. Tu as pris la décision correcte et précise. et c'est mon chemin. À cause de cette décision capitale, une énorme portion du ciel t'attend. Quelle décision glorieuse tu as prise. Ceci en soi est ce qui donnera et fera s'accomplir leur formidable victoire dans l'amour divin. Et l'homme a signé son nom là. La déclaration ci-dessus a été interprétée lors de la prophétie donnée à Frère Branham par Danny Henry, donnée avec trois témoins dans la cafétéria à Los Angeles, en Californie. Maintenant, ce même jeune homme qui avait donné la prophétie sans savoir ce qu'il disait est allé à Jérusalem il y a environ un mois. Il a eu le privilège de se rendre là-bas et de s'allonger dans le sépulcre à l'endroit où Jésus est mort et a été enseveli. Et alors qu'il était allongé là, il a dit qu'il s'est mis à penser très fort à moi et qu'il a commencé à pleurer. Il se disait, comment ça a été difficile vraiment pour Frère Branham de prendre position contre le monde et ces choses-là et toutes les églises. Comme on le disait une fois de quelqu'un du côté de Billy Graham, on disait, nous pouvons reconnaître Billy Graham parce que toutes les églises font bloc en sa faveur. Nous reconnaissons Oral Roberts, les pentecôtistes. Mais comment arriver à accepter quelque chose quand cela va à l'encontre de l'enseignement que les gens ont reçu? C'est Dieu. Et Danny, son passe-temps, c'est de tailler des petites pierres. Il est allé à l'endroit où la croix avait été dressée, à l'endroit où l'on dit que la croix se trouvait dans le roc. Il n'y avait personne dans les parages, alors il a détaché un petit morceau du rocher et il l'a mis dans sa poche comme souvenir. Il est rentré et il m'en a fait une paire de boutons de manchette. Et chose étrange, quand il les a faits, on aurait dit qu'ils étaient tachés de sang. Et juste au milieu de chacun d'eux, un sentier droit et étroit les traverse tous les deux, d'un bout à l'autre. Or, il se pourrait que ce soit seulement... Voyez-vous, quelqu'un d'autre ne l'aurait peut-être pas remarqué, mais moi, je considère ça comme un éloge aux choses que je crois. Je crois que tout a une signification. Et maintenant, en ce moment, quoi que le Seigneur ait, si ceci n'est pas ce qu'il a prophétisé quant à Malachie 4, et aussi à Luc 17 et bien d'autres passages des Écritures qui doivent arriver dans ce dernier jour, permettez-moi de dire ceci en terminant. Cela a posé le fondement pour cet homme quand il viendra. Alors, je suis très reconnaissant de ce que le Dieu Tout-Puissant, si tel est le cas, m'ait permis de faire un petit quelque chose avec mon peu d'instruction pour exprimer ma gratitude pour son amour envers moi, mon amour envers lui et notre amour envers les gens. Donc, en toute sincérité, j'aborde ce sujet, le mariage et le divorce. Que Dieu soit miséricordieux envers nous tous. Maintenant, écoutez attentivement. Et les sœurs, ne vous levez pas pour partir. Restez assises un petit moment. Les frères, faites la même chose. N'éteignez pas vos postes, vous qui êtes en ligne avec nous. Ne faites pas ça. Restez assis tranquillement pendant quelques instants jusqu'à ce que ce soit terminé. Écoutez attentivement. Si vous n'êtes pas d'accord, notez les versets auxquels je me réfère et ensuite étudiez-les avec une attitude de prière avant de prendre votre décision. Oh Dieu, aide-nous comme nous essayons d'aborder ce sujet. Or, il se peut que ce soit un peu long. Je ne voudrais pas que vous soyez pressés. Prenez votre temps, simplement, nous tous, et étudions la parole de Dieu, véritablement, et à fond, du mieux que nous pouvons l'étudier. Commençons avec Saint Matthieu, au chapitre 19, et à partir, je pense, du verset 8 du chapitre 19. C'est là que j'aimerais commencer. Je pourrais commencer au premier verset et lire jusqu'au verset 8 du chapitre 19. Maintenant, souvenez-vous, ces choses que je dis doivent venir de la parole de Dieu. Ce ne peut pas être mon opinion personnelle, parce que mon opinion, c'est comme l'opinion de n'importe qui. Mais il faut que ce soit en continuité avec la parole de Dieu. Souvenez-vous, Dieu garde tout dans la continuité. Il ne change jamais. Il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Le croyez-vous? Il est le même. Maintenant, je vais lire au chapitre 19. Et il arriva, quand Jésus eut achevé ses discours, qu'il partit de la Galilée et vint vers les confins de la Judée, au-delà du Jourdain. Et de grandes foules le suivirent, et il les guérit là. Et les pharisiens vinrent à lui pour l'éprouver. Je fais une pause là pour vous permettre de bien saisir l'emphase, voir qui étaient ceux qui l'éprouvaient, et lui disant, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause ?» Et lui, répondant, leur dit, « N'avez-vous pas lu que celui qui les a fait dès le commencement les a fait mâles et femelles ?» Et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et sera uni à sa femme, et les deux seront une seule chair. » Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce donc que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ils lui disent, « Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce et de la répudier ?» Et il leur dit, « Moïse, à cause de la dureté de votre cœur, vous a permis de répudier vos femmes. » Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Maintenant que Dieu nous aide, Jésus était confronté à ce passage des Écritures, à cette question, au tout début de son ministère. Moïse y a aussi été confronté au tout début de son ministère. C'est une question de première importance dans le cœur des croyants. Le pécheur, ça lui est égal. Par contre, c'en est une pour les croyants parce que le croyant cherche à faire tout ce qu'il peut pour vivre correctement devant Dieu. Par conséquent, aussitôt qu'une question se pose sur la religion, le cas du mariage et du divorce se pose aussi. Pourquoi? Parce que c'est la cause du péché originel. C'est là que le péché a commencé. Et c'est pour cette raison que ça revient sur le tapis chaque fois, parce que c'est l'origine même du péché. Maintenant, je n'aurai pas le temps d'expliquer toutes ces choses, mais je répondrai volontiers à votre lettre ou à tout ce que je peux, où nous aurons des livres qui traitent de cela, et de bien des questions, et même des coupures de journaux et tout, là, pour le prouver. Nous savons qu'il s'agissait d'Ève, cette pomme qu'elle aurait mangée, ce qui n'est même pas biblique. Et maintenant, ils prétendent que c'était un abricot. Ce n'était ni l'un ni l'autre. Elle a commis un adultère, ce qui a produit le premier enfant, c'est-à-dire Caïn, le fils même de Satan, car en lui se trouvait le mal. Il n'est pas venu à travers Abel. Le fils de Satan, c'était Caïn. Je sais quelle question vous avez là. Ève a dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » C'est tout à fait exact. Vous pourriez prendre la femme la plus méchante en ville, le pire homme. S'ils avaient un bébé, il faudrait qu'il vienne du Seigneur, parce que Dieu a établi des lois. Et ces lois, comme le soleil qui se lève, mettez un gratteron dans un bon champ, il va pousser. Et il faut qu'il pousse, parce que c'est une loi de Dieu. Quand une semence a été plantée, elle doit pousser. Et rien ne peut faire pousser une vie si ce n'est Dieu, parce que ça relève de ses lois. Par conséquent, quand la semence mauvaise a été plantée dans le sein d'Ève, il fallait qu'elle produise. Parce que c'est la loi de Dieu, la loi de la production. Elle ne pouvait pas faire autrement que produire, et il fallait que ça vienne de Dieu. C'est pour cette raison que les gens disent, les petits bébés, parfois, qui ne sont pas nés de parents chrétiens, sont perdus. Le sang de Jésus-Christ fait l'expiation pour cet enfant, peu importe combien sa naissance et combien elle est née dans le mal. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le petit enfant ne peut pas se repentir parce qu'il n'a à se repentir de rien. Et c'est ça le péché du monde qui a été ôté par le péché, par le sang de Christ. Les bébés vont au ciel. C'est le péché originel. Et c'est pour cette raison qu'on se pose des questions à ce sujet. Chaque fois que quelque chose de très phénoménal est envoyé par Dieu, c'est à peu près la première question qui est posée. Qu'en est-il de mariage et divorce? Maintenant, comme toujours, c'est encore la question parmi les gens. Comme il en était du temps de Jésus, comme il en était du temps de Moïse, La question s'est toujours posée et est encore aujourd'hui la question parmi les gens, parce que les gens veulent connaître la vérité. Mais là où il y a une question, il doit aussi y avoir une réponse. Et maintenant, cette réponse, comme je l'ai déjà dit cette semaine, il faut qu'il y ait une réponse correcte. Et si nous recevons une réponse à quelque chose, et que ce ne soit pas juste, alors nous savons qu'elle était fausse. Mais il y a, on continuerait quand même à poser la question jusqu'à ce que la vraie question reçoive sa réponse, si on veut connaître la vérité. Et comme il s'agit ici d'une question biblique, la réponse devrait être biblique. C'est comme si je disais, si je voulais aller vers l'Est ce matin, et au mieux de ma connaissance, il y a quelque chose que je dois retrouver dans le champ, et cette chose se trouve directement à l'Est, alors j'irai vers l'Est. Quelqu'un dirait, Frère Branham, l'Est, c'est par ici. C'est l'Est, potentiellement, mais c'est le Nord-Est. Je passerai à côté de l'objet même que je cherchais. Je reviendrai, je saurai que c'était faux. Et puis, si quelqu'un disait, Frère Branham, allez par là, à votre droite. Bon, là encore, ça pourrait bien l'être, l'Est potentiellement, mais c'est le Sud-Est. Je perdrai l'objet que je cherchais, parce que je suis allé au-delà des limites du chemin parfait et direct. Maintenant, si c'est ainsi, nous avons deux écoles de pensée sur le mariage et le divorce. L'une d'elles dit qu'un homme peut se marier seulement une fois à moins que sa femme ne soit morte. Et ça, c'est une des questions. Mais si on se conforme à ça, on passe par-dessus bord. Et l'autre affirme, « Oh, si la femme ou le mari, n'importe lequel des deux a commis adultère, n'importe lequel des deux peut être répudié et se remarier, vous vous retrouvez par-dessus bord avec ça. » Alors vous voyez, ce n'est ni le sud-est, ni le nord-est. Nous voulons aller directement à l'est. Vous sortez des Écritures en allant dans cette direction-ci. Vous sortez des Écritures en allant dans cette direction-là. Ce que nous voulons connaître, c'est l'endroit où l'Écriture rejoint l'Écriture et connaître la vérité. Ils prennent chacun une direction différente et ne parviennent pas à donner la réponse correcte. Mais il faut pourtant qu'il y ait une réponse. C'est comme aujourd'hui. Il y a deux grandes écoles de doctrine dans l'Église. L'une, c'est le calvinisme. L'autre, c'est l'arminianisme. L'une est légaliste, l'autre est basée sur la grâce. Et nous voyons que les gens qui croient à la grâce, les calvinistes, ils disent, Dieu soit béni, je fume, ça ne me dérange pas, je bois, ça ne me dérange pas, je peux faire ces choses-là, j'ai la sécurité éternelle. Ensuite, nous voyons que de l'autre côté, du côté des légalistes, ils disent, oh, j'aimerais bien l'engueuler, j'aimerais lui dire ces quatre vérités, mais je suis chrétien, il faut que je reste tranquille. Voyez, vous vous retrouvez sur deux routes différentes, et ni l'une ni l'autre n'est la bonne. Maintenant, c'est dur de dire ça, mais c'est la vérité. Nous nous retrouvons sur deux différentes routes, l'une qui va dans une direction, l'autre dans une autre. Maintenant, voyons ce qu'est la vérité. Maintenant, écoutez, voyez si vous trouvez ça raisonnable. Par exemple, si je me préparais à partir outre-mer, je vais considérer ma propre famille. Je ferai venir ma femme près de moi et je dirai, je pars à l'étranger, chérie. Maintenant, voici le côté légaliste. Maintenant, ma femme, je vais t'exposer la loi. Si tu flirtes avec un homme en mon absence, quand je reviendrai, considère-toi comme divorcée. Et je ne veux pas que tu fasses de l'œil. Je ne veux pas que tu flirtes. C'est compris, je suis ton mari. Si tu fais ça, je te répudierai quand je reviendrai. Ensuite, elle m'attrape par la cravate et elle dit, « Mon bon monsieur, je veux te dire quelque chose. Si tu fais de l'œil à une femme, si tu sors avec une femme ou que tu flirtes avec une femme, tu seras un homme divorcé quand tu reviendras. Maintenant, ce serait un foyer heureux, ça. Ce sont les légalistes. » Très bien. Maintenant, de l'autre côté, si je partais à l'étranger, et que je fasse une erreur, je dirais, bon, écoute, je vais sortir avec cette femme-là, ou ma femme, ça lui fait rien, ça lui est égal. Ma femme dirait, je vais sortir avec cet homme-là, Bill, ça le dérange pas, ça lui est égal. Si ça m'est égal, alors il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Je n'aime pas cette femme comme je devrais. Si ça lui est égal, il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. C'est ma femme. Je ne veux pas qu'un autre homme batifole avec elle. Elle est ma femme. Maintenant, la façon correcte, les deux possèdent une part de vérité, mais pas l'exacte vérité. Maintenant, quand je pars outre-mer, pour que ce soit comme ça devrait, nous nous rassemblons tous, ma petite famille, et nous prions ensemble. Et je les confie à Dieu, et ils me confient à Dieu. Et à ce moment-là, nous partons à l'étranger, je pars outre-mer. Or, je sais qu'elle m'aime. J'ai confiance en elle. Et je l'aime. Elle a confiance en moi. Et tant que je l'aime comme ça, elle n'a pas à craindre que je sorte avec une autre femme. Et tant qu'elle m'aime comme elle devrait, eh bien, je n'ai aucune raison de penser qu'un autre homme pourrait sortir avec elle. Parce qu'elle est ma femme, et je la crois. Je crois que si je faisais vraiment quelque chose de mal, si je faisais une erreur, une faute, et que je sorte avec une femme, et qu'à mon retour, je lui confesse, et que je lui dise, « Meda, je ne voulais pas faire ça, j'ai été pris au piège. C'est où cette femme est venue vers moi en courant. Et elle m'a pris par le bras et elle s'est mise à me dire telle et telle chose. Je crois qu'elle comprendrait. Je crois qu'elle me le pardonnerait. Mais je ne le ferai pour rien au monde. Parce que je l'aime. Même si elle me pardonnait, je ne le ferais pas. Je ne voudrais pas lui faire de la peine. Bien que je sache qu'elle me le pardonnerait, je ne veux pas lui faire de la peine. Et c'est comme ça avec Dieu. Si un amour filéo, qui est l'amour humain, l'amour qu'on a en communion fraternelle, peut amener un homme à avoir ce sentiment-là envers sa femme, qu'en est-il de l'amour agapao, ce mot grec qui signifie l'amour de Dieu, comment ferait-il agir envers Jésus-Christ? Tant que je peux le faire, c'est que j'ai à cœur de le faire. Je dis que tant que j'ai à cœur de le faire, je vais le faire. Le légalisme va m'empêcher de le faire, parce que je sais que je serais puni si je le faisais. Mais la vérité véritable, c'est que quand l'amour de Dieu entre dans votre cœur, vous désirez, vous voulez le faire. Voilà la vérité. Voilà les deux écoles. Non pas le légalisme, ni l'autre, ni le calvinisme. C'est les deux. Maintenant, aujourd'hui, nous voyons aussi qu'il y a beaucoup de dénominations différentes. Il y a l'Église catholique, l'Église protestante. Chacune d'elles dit que c'est eux le chemin. Voyez, nous avons le chemin, la vérité, c'est nous. Il y a les méthodistes qui disent, c'est nous qui avons la vérité. Les baptistes disent, c'est nous qui avons la vérité. Eh bien, à mon sens, tant qu'ils pensent comme ça, ce n'est pas ainsi. Parce que Jésus a dit, « Je suis la vérité ». Par conséquent, comme je le disais dans ma prédication hier soir, il est le lieu où Dieu a mis son nom, le seul lieu d'adoration. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous êtes protestant. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous êtes catholique. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous êtes méthodiste, baptiste ou pentecôtiste. Vous êtes chrétien parce que vous avez été baptisé en Jésus-Christ par le Saint-Esprit, pas par l'eau. Il y a une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau vous introduit dans une communion, mais le baptême du Saint-Esprit vous introduit en Christ. Voilà la vérité. Nous avons aussi deux pensées sur le mariage et le divorce. Maintenant que notre Seigneur nous a ouvert le mystère du septième sceau de sa parole en ces derniers jours, maintenant, pour beaucoup d'entre vous, c'est peut-être du grec, mais mon Église comprend. Vous avez entendu parler des visions et de ce qui est arrivé. Et la question est une question biblique. Nous sommes invités ici à croire qu'il doit y avoir une vraie réponse à tout le secret caché qui a été caché depuis la fondation du monde. Et la Bible prophétise et dit qu'en ce jour-ci, ces secrets seraient divulgués, connus. Apocalypse 10. Et quand le septième ange, le messager de Laodicée, sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu seraient divulgués, seraient connus, et c'est maintenant le dernier âge qui est celui de Laodicée. Regardez tout ce réveil qui dure depuis maintenant 15 ans ou plus, et pas une seule dénomination n'en est sortie. Luther a eu un réveil, il a eu une dénomination. Wesley, il y a eu une dénomination. Alexandre Campbell, il y a eu une dénomination. tous les autres grands, John Smith et tout, des dénominations, Moody, tout le long. Mais ici, d'habitude, un réveil ne dure qu'à peu près 3 ans. Mais celui-ci dure depuis plus de 15 ans et pas une seule dénomination n'en est sortie. Car c'est maintenant le temps de la semence. Il n'y a plus de balle. Après que la balle est partie, c'est la semence. Dieu est prêt. S'il n'est pas en train de le faire maintenant, il va appeler une église à la perfection par sa parole, Jésus-Christ. Remarquez, il doit y avoir une réponse quelque part. Et étant donné que le mystère de Dieu scellé de 7 sceaux, combien comprennent cela? Levez la main. Je pense que la plupart font partie de notre assemblée d'un peu partout. Écoutez, sinon, les brochures ne vont pas tarder à sortir sur le sujet. Nous avons des livres, nous en avons quelques-uns là-bas. Jésus, dans notre texte, nous invite à nous reporter au commencement pour obtenir la vraie réponse biblique. Or, quand il a été confronté à ceci, il y avait 2 points à considérer. Le sacrificateur lui a dit, « Est-ce qu'un homme peut répudier sa femme, en marier une autre pour un motif quelconque ?» Et Jésus a dit, « Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Ensuite, ils ont dit, « Moïse nous a permis d'écrire une lettre de divorce et de la répudier pour n'importe quel motif. » Il a dit, « Ça, Moïse l'a fait à cause. » Je fais une pause là pour souligner, « À cause de la dureté de vos cœurs. » Mais depuis ou au commencement, il n'en était pas ainsi. La question aujourd'hui, par exemple, de la paix mondiale, va-t-elle venir par la politique, par l'Union des Nations Unies? Je vous dirais non. Ça a toujours échoué et ça échouera encore. Mais il reste qu'il y a une vraie réponse à la question. Y aura-t-il la paix sur la terre? Oui. Quand le péché aura été éliminé de la face de la terre, il y aura la paix. Mais jusque-là, il n'y aura pas de paix. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Dieu a donné un remède contre le péché. Écoutez attentivement maintenant. Dieu a donné le remède pour éliminer le péché de la face de la terre. Mais l'homme de la terre ne veut pas accepter le remède de Dieu. Dieu nous a donné un remède et une façon d'épouser nos femmes et de vivre avec elles. Mais l'homme ne veut pas accepter le remède de Dieu, ne veut pas accepter sa parole. Jésus a dit ceci, et ça nous rappelle ce qu'il en est de ses paroles, en sachant qu'il a dit, « Les cieux et la terre failliront, passeront, mais les miennes ne failliront pas. » La question, la vraie réponse, ce à quoi Jésus veut que nous reportions, c'est de nous reporter au commencement. Donc ça, ce serait dans la Genèse, parce que le mot Genèse, c'est le chapitre des semences pour toutes les questions qu'il y a dans la Bible. Et vous devez toujours revenir à la semence, voir quelle sorte de semence il y a dans un champ pour voir ce que vous aurez comme récolte. Donc, quelle sorte de semence a été semée? Comme la Genèse est le chapitre des semences, nous nous reportons à la Genèse. Jésus nous ramène à ce passage de l'Écriture. Au commencement. Maintenant, souvenez-vous, ça, c'est quand le temps a commencé. Avant ça, c'était l'éternité. Maintenant, notre question, là, c'était, remarquez, si nous nous reportons au commencement, maintenant, ne manquez pas ceci. Et c'est pour cette raison que je veux parler lentement, pour que les gens qui sont à l'écoute par la liaison téléphonique et sur bande, que ce soit dit clairement. Si Jésus a dit, reportez-vous au commencement, il n'y avait qu'un couple de chaque espèce sur la terre. Il y avait un Adam, une Ève. Ils avaient été unis par Dieu seul. Un cheval femelle, un mâle. Un perroquet femelle, un mâle. Au commencement, comme il nous a dit de nous y reporter, il n'y avait qu'un couple de chaque espèce. Est-ce vrai? Et puis, nous voyons là qu'au commencement, tout était dans un ordre parfait, dans une harmonie parfaite avec Dieu. Rien n'allait de travers. Tout ce qui est dans le ciel est encore en ordre. Toutes les étoiles, les galaxies, le système solaire, tout est parfaitement en ordre. Si l'une d'elles se déplaçait, ça interromprait le programme tout entier. Maintenant, écoutez. Le voyez-vous, une seule interruption gâche tout le programme. Maintenant, quand les êtres humains marchaient dans la continuité avec Dieu, un homme et une femme, voilà que cette femme a péché, ce qui a fait sortir tout le programme terrestre de sa continuité avec Dieu. Par conséquent, une seule parole ajoutée à ce livre, ou une seule parole retranchée de celui-ci fait sortir le chrétien de sa continuité avec Dieu, fait sortir l'Église de sa continuité avec Dieu, fait sortir une famille de sa continuité avec Dieu. Tous les croyants risquent d'en sortir en n'acceptant pas chaque parole de Dieu. Donc c'est la femme qui a causé la division de ce beau foyer. Ce n'est pas un chérubin qui a perturbé la terre. Ce n'est pas Adam qui a brisé ce foyer. Ce qui a brisé ce foyer et qui a tout fait sortir de sa continuité, ce n'est personne d'autre que une femme, Ève. Et c'est ici où ce commencement dont parlait Jésus a été brisé. Jésus a dit, au commencement, Dieu a fait un mâle, une femelle, de chaque espèce. Et alors, quand cette femme, pas le cheval femelle, pas le chien femelle, mais la femme, elle a brisé toute la continuité de l'action de Dieu sur terre. Elle a tout précipité dans la mort. La femme, pas l'homme, elle a rompu l'alliance. Elle a rompu l'alliance. Pourquoi? Parce qu'elle est allée au-delà des frontières de la parole de Dieu. Maintenant, si elle a rompu son alliance avec son mari, elle a rompu son alliance avec Dieu. Donc, puisqu'elle a rompu son alliance avec Dieu, elle l'a rompu avec son mari. De même, quand vous rompez votre promesse et votre alliance vis-à-vis de la parole de Dieu, voilà ce qui produit tant de membres d'églises illégitimes. C'est parce qu'un groupe d'hommes se sont réunis et ont dit, eh bien, c'est pas ça que ça voulait dire. Et c'est ce qui fait sortir toute l'organisation de la continuité avec la parole. Nous ne croyons pas cela. Le docteur Jones a dit qu'il n'en était pas ainsi. Mais pourvu que Dieu ait dit qu'il en est ainsi, il a dit que toute parole d'homme soit un mensonge et que la mienne soit vraie. C'est là que la continuité est rompue. Alors nous voyons, comme la continuité a été rompue, alors il y a eu rupture de la ligne de vie, rupture aussi de la ligne du temps, rupture de l'alliance. Tout a été détruit. Quelle en a été la cause? Une femme. C'est ça qui a rompu l'alliance. Maintenant, si vous voulez le lire, vous pouvez le lire. Genèse 3. C'est alors qu'il a été donné à l'homme de dominer sur la femme par la parole de Dieu. Elle n'était plus égale à lui. Par nature, elle était son égale, vous savez. Mais quand elle a transgressé la parole de Dieu, Dieu a donné à l'homme de dominer sur elle. Genèse 3:16, si vous voulez le noter. Elle n'était plus l'égale de l'homme. C'est elle qui avait transgressé la parole de Dieu. Vous le voyez, n'est-ce pas? Elle, l'Église ici, elle avait transgressé la parole de Dieu, ce qui l'a complètement fait sortir de la continuité. Voilà ce que l'Église a fait. Elle a tout entraîné dans la mort spirituelle. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi je martèle ces choses-là comme je le fais. C'est vrai. Ce sont des faits bibliques. Remarquez, pourquoi a-t-elle fait une chose pareille? Comment cette femme charmante, ravissante, parfaite a-t-elle pu? J'ai vu un tableau une fois, je crois que c'était en Grèce, d'un artiste qui avait peint un portrait d'Ève. C'était la créature la plus hideuse qu'on ait jamais vue. On voit par là à quoi un esprit charnel peut regarder. Mais elle n'était pas comme ça, elle était belle. Parce que c'était une femme parfaite, complètement femme. Remarquez, pourquoi a-t-elle fait une chose pareille? Elle, qui était à ce rang élevé, elle était là avec l'homme, son égal. Mais nous savons tous maintenant qu'elle a perdu son égalité avec l'homme quand elle a péché. Et Dieu a dit, l'homme dominera sur toi à partir de maintenant. Ce sont les Écritures. Si vous le voulez, vous pourrez le lire. Je vous donne les références bibliques pour gagner du temps, vu qu'il y a tout ce monde partout dans le pays qui est en ligne avec nous. Comme ça, vous pourrez le lire vous-même. Remarquez, la raison pour laquelle elle a fait cela, comment Satan a-t-il bien pu parvenir jusqu'à elle? Saviez-vous que Satan était égal à Dieu à un certain moment? Assurément. En tout, sauf qu'il n'était pas un créateur. Il était tout, il se tenait à la droite de Dieu, dans les cieux, le grand chérubin qui tenait la première place. Remarquez, la raison pour laquelle elle a fait ça, c'est parce qu'elle ne faisait pas partie de la création originale. Elle ne fait pas partie de la création originale de Dieu. Elle est un produit dérivé. Par conséquent, au commencement, comme Jésus y a fait référence, elle n'était pas un être créé originellement par Dieu. Elle est un produit dérivé de l'homme. Quand Jésus fait référence au commencement, souvenez-vous, Adam était à la fois masculin et féminin dans la création originale. Il était un. Mais après, il a été séparé par une côte. Remarquez, seulement un produit dérivé. Et remarquez, la seule de toute la création de Dieu, de tous les animaux et de tout le reste, elle était la seule conçue comme ça. Toutes les autres femelles faisaient partie de la création originale. Toutes les autres femelles faisaient partie de la création originale. Mais Ève ne faisait pas partie de la création originale. Voyez-vous, il fallait que ce soit comme ça. Nous allons le voir un peu plus tard. Remarquez cette création dont elle faisait partie. Elle ne faisait pas partie de la création originale, mais elle était un produit dérivé. Et dans cette création, maintenant, je ne veux pas blesser vos sentiments, mais je vais vous dire la vérité et restez assis bien tranquillement. Jusqu'ici, tout va bien. Il n'y a rien qui soit conçu pour être aussi séducteur qu'une femme qui soit séducteur. Rien d'autre ne peut l'être. Rien n'a été fait pour être comme ça. De même, il n'y a rien qui puisse être aussi facilement séduit qu'une femme. La chute prouve que cette déclaration est vraie. La chute au commencement. Elle n'était pas dans la création originale du commencement. Elle était en Adam. Mais pas en tant que sexe féminin elle-même au commencement. Elle était le produit dérivé. Donc, il n'y a rien de ce qui a été conçu qui puisse séduire et être séduit aussi facilement qu'une femme. Il n'y a rien de ce qui a été conçu ou qui puisse s'avilir autant qu'une femme. Pensez-y. De toute la création, il n'y a rien de ce qui a été conçu qui puisse s'avilir autant qu'une femme. Elle peut briser le cœur d'un homme plus facilement que tout au monde. C'est son épouse. Que cette gentille petite épouse se mette à batifoler avec un autre homme. Regardez cet homme assis là avec ses enfants, les larmes qui coulent de ses yeux. Elle est conçue comme ça. Elle est conçue pour agir comme ça. Il n'y a aucun cochon, aucun chien, aucun autre animal qui soit conçu comme elle ou qui puisse s'avilir autant qu'elle le peut. Et ça, c'est vrai. Sans manquer d'égard envers mes sœurs. Mais je veux simplement que vous observiez. Aucun animal ne peut être immoral. Vous appelez une chienne une coureuse, le chien femelle. Vous appelez le mâle, le cochon, une truie. Mais elle a une moralité qui dépasse d'un million de kilomètres celle de beaucoup de vedettes d'Hollywood. Voilà à quel point elle est conçue pour s'avilir. Elle ne peut pas. Pensez un peu à ça maintenant. Il n'y a rien de ce qui a été créé par Dieu, rien au monde, qui puisse être immoral, s'avilir autant. Vous dites un instant, l'homme, on va y venir. La femme doit dire oui. Remarquez, il n'y a rien qui soit conçu pour s'avilir autant ou pour se livrer à la souillure comme la femme. Un chien ne peut pas le faire. Un cochon ne peut pas le faire. Un oiseau ne peut pas le faire. Il n'y a aucun animal qui soit immoral ou qui puisse l'être. Car il n'a pas été conçu de façon à pouvoir l'être. Un cochon femelle ne peut pas être immoral. Un chien femelle ne peut pas être immoral. Un oiseau femelle ne peut pas être immoral. Il n'y a que la femme qui puisse l'être. Maintenant, vous voyez où Satan est allé? Mais il reste qu'elle a, c'est quand même elle qui a le pouvoir de dire oui ou non. Voyez-vous, ça dépend si elle veut se tenir ou pas. Maintenant, nous pouvons voir clairement la semence du serpent ici, par où elle est entrée. S'il n'y avait qu'un endroit où il pouvait aller, si avec ça, ce n'est pas absolument évident, quelqu'un est aveugle. Voyez? Il fallait que ça en arrive là. Remarquez, la raison pour laquelle les animaux ne pouvaient pas le faire, un animal femelle, c'est parce qu'il faisait partie de la création originale. Mais la femme ne faisait pas partie de cette création originale. Maintenant, nous allons remonter dans le passé pour voir ça, et après nous reviendrons jusqu'au temps moderne dans le Testament. Elle est la seule qui soit conçue pour se livrer à la souillure et à une vie impure. La chienne ne le peut pas. Aucune autre femelle ne le peut. Il n'y a que la femme qui le peut. La chienne et tous les autres animaux, c'est une fois par an, et ça pour avoir ses bébés. Pas pour le plaisir sexuel, mais pour avoir ses petits. La brave truie, la brave chienne, c'est une fois par année, à un moment précis, et c'est pour avoir ses petits. Mais une femme est conçue pour le faire chaque fois qu'elle en a envie. J'ai barré certaines choses ici. Vous pouvez vous imaginer le reste. La chienne ne le peut pas, la femme le peut. J'espère que le Saint-Esprit vous révélera le reste, ce que j'ai barré ici. Elle est la seule espèce dont la femelle soit plus belle que le mâle. Il n'y a aucune autre espèce de toutes celles qui existent. Chez toutes les autres créatures de Dieu, ce sont de beaux mâles. C'est comme chez les animaux, les oiseaux et tout. C'est toujours le mâle qui est beau. Regardez le grand cerf, de beaux grands bois, une bête imposante et la modeste petite biche. Regardez le grand coq avec toutes ses belles plumes et la petite poule brune. Regardez les oiseaux, l'oiseau mâle et l'oiseau femelle. Pourquoi? Pourquoi en a-t-il été ainsi chez tous les animaux créés par Dieu? Chez tous les animaux, c'est le mâle qui est le plus beau. Chez les moutons, chez les cochons, chez les chevaux, chez tous les autres, c'est toujours le grand mâle qui est beau. Et chez les oiseaux aussi. Mais dans la race humaine, c'est la femme qui est belle. Pas l'homme. S'il l'est, il y a quelque chose qui cloche. Il y a un mélange de semences quelque part. Originellement, c'est comme ça. Pourquoi? Pourquoi cet état de fait? Pour séduire. Son concepteur, Satan, continue à agir sur elle en ces derniers jours. Je vais m'arrêter juste ici un instant. Jolie! Saviez-vous que la première destruction à l'échelle internationale du monde, ou mondiale, c'était à cause de jolies femmes? Quand les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes. Pas vrai? Avez-vous remarqué l'augmentation de la beauté des femmes en ce jour? J'ai vu la photo de Pearl O'Brien, qui passait à un moment donné pour la plus belle femme du pays. Il n'y a pas une adolescente de cette école qui ne l'éclipserait quant à la beauté. L'accroissement de la beauté des femmes témoigne de ce temps de séduction. Quand l'Église a-t-elle été plus belle en apparence qu'aujourd'hui? Tout l'accent est mis sur de beaux grands bâtiments et des millions de ceci et des millions de cela. Ne voyez-vous pas? C'est elle la séduction. Donc, il n'y a rien qui puisse s'avilir autant qu'elle. Et elle est conçue de façon à être séduisante. D'ailleurs, Satan agit vraiment sur elle aujourd'hui, en ces derniers jours. Parce que c'est lui qui fait son design. Je peux prouver ça tout de suite en retournant directement au commencement. Qui a commencé à agir sur elle? Adam ou Satan? Dieu ou Satan? Voyez, c'est lui qui l'a modelé. C'est son arme principale pour entraîner l'homme dans sa souillure. Par sa beauté, la femme peut entortiller un homme comme elle le veut. Frère, ce n'est pas le bar là-bas qui prend l'homme au piège, c'est cette belle femme qui marche dans la rue en se tortillant à moitié vêtue. C'est ça. C'est ça qui est trompeur, voyez. Et elle s'en sert d'une façon mortelle, absolument mortelle. Vous allez peut-être me questionner parce que j'ai dit que c'est Satan qui l'avait modelé. Mais c'est la vérité. C'est Satan qui l'a modelé. Et c'est encore lui qui le fait. Je vais vous montrer quelque chose dans l'Écriture. Je dois vous ramener à l'Écriture. Ensuite, vous pourrez vous faire une opinion en regardant ce qu'il en est aujourd'hui. C'est Satan qui se caractérise par ce genre de beauté. Si nous remarquons, il était le plus beau de tous les anges du ciel. Pas vrai? Et il désirait faire du ciel un plus beau lieu que le royaume de Michaël. Pas vrai? De même, pour vous montrer que Caïn était son fils, celui-ci a offert une plus belle adoration. Il a décoré ses autels avec des fruits, des fleurs et tout. Pas vrai? La beauté. Le péché est beau, selon ce que nous appelons la beauté aujourd'hui. Et le péché est trompeur, séducteur par la beauté. En regardant passer une femme dans la rue, vous pourriez jamais déceler ce qu'il y a dans le cœur, voyez. Mais je voulais dire ces choses pour vous faire savoir ce qui fait que c'est Satan qui l'a modelé. C'est tout à fait exact. Son propre fils l'a prouvé. Caïn. Donc, si elle est belle, c'est pour pouvoir séduire. Si le monde est beau, c'est pour pouvoir séduire. Je parle du cosmos, du système mondial. S'il est beau, c'est pour pouvoir séduire de très beaux endroits et du luxe. Vous vous souvenez le prophète Amos quand il est monté, qu'il a regardé en bas vers la ville et qu'il l'a vu comme une Hollywood moderne. Il a plissé ses petits yeux sous les cheveux gris qui lui tombaient sur le visage. Et il est descendu là-bas avec un message et il a fait tonner dans cette ville. Il a dit, le Dieu même que vous prétendez servir vous détruira. C'est exact. Le péché est beau. Il se représente Judas comme une espèce de vieil ivrogne qui traînait dans la rue quelque part, la lèvre pendante avec des mouches dessus et tout. Judas était beau, fort. C'était un trompeur. Ce n'est pas ce gars-là qu'il faut surveiller autour de vous. Ce n'est pas le gars, le brave fermier qui arrive en salopette qu'il faut surveiller autour de votre épouse. C'est ce fin rusé. C'est lui la racaille. Le péché est beau aux yeux du monde. Mais Dieu ne se caractérise pas par ce genre de beauté. Saviez-vous cela? Dieu se caractérise par le caractère, un beau caractère. Dans la Bible, Ésaïe 53, si vous voulez noter la référence biblique, il y a beaucoup de références bibliques notées en marge ici pour appuyer cela. Ésaïe 53, la Bible dit de notre Seigneur Jésus que son aspect n'avait rien pour nous plaire et il était semblable à celui dont on détourne le visage. Pas vrai? Il ne nous plaisait pas parce qu'il n'était pas beau. C'était probablement un petit homme aux épaules tombantes, au teint rougeâtre, alors qu'on ne voulait pas de lui comme chef. Il n'avait pas l'air d'un chef. Il utilisait le langage de la rue et tout, comme celui des gens ordinaires. Et alors, il n'avait pas l'air d'un grand érudit, de quelqu'un d'instruit, d'un homme bien, avec une grande soutane et tout. C'était simplement un homme ordinaire. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Depuis toujours, il allait et venait au milieu des hommes. Il ne savait même pas qui il était. Quand il marchait, il n'avait pas l'air d'un Dieu, selon l'idée que nous pensons d'un Dieu. Mais n'empêche que c'est ce qu'il était. Avez-vous remarqué, quand le Seigneur Dieu a dit à Samuel, « Va à la maison d'Isaïe, oindre un de ses fils pour roi, pour prendre la place de Saül. » Or, les gens avaient choisi Saül alors que Samuel avait été formel, il leur avait dit de ne pas le faire. Il a dit, « Dieu ne veut pas que vous ayez un roi. C'est lui votre roi. » Il a dit, « Vous ai-je déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne se soit pas accompli? Vous ai-je déjà réclamé de l'argent ou quoi que ce soit pour mes besoins personnels? » Ils ont dit, « Non, tu ne nous as jamais réclamé d'argent. Et tout ce que dit au nom du Seigneur s'est accompli, mais nous voulons quand même un roi. » Alors, ils ont choisi Saül. Regardez ce que le monde a choisi. Regardez ce qu'Israël a choisi. Israël. Les oints de Dieu ont choisi un homme qui dépassait d'une tête tous les hommes de la nation. Un bel homme, de grand et belle apparence. Mais il a toujours été l'empêcheur de tourner en rond. Seulement Dieu a dit, « Je vais vous choisir un roi selon mon choix. » Alors il a dit, « Samuel, je ne te dirai pas qui c'est, mais va là-bas, c'est l'un des fils d'Isaïe. » L'un des fils de Jesse. Et ils ont regardé autour d'eux, ils ont dit, « Oui, notre fils aîné, c'est un bel homme, très grand. La couronne royale lui irait à merveille. Il est intelligent, il est instruit. C'est un homme très bien. Je sais qu'il fera très bien l'affaire. Il a une très bonne diction. » Quand ils l'ont fait venir, Samuel a pris la cruche d'huile, il s'est avancé vers lui. Il a dit, « Non, l'Éternel l'a refusé. » Alors, il les a passés l'un après l'autre, jusqu'à 6 de ses fils, et l'Éternel a refusé chacun d'eux. Il a dit, n'y en a-t-il pas un autre? Oh, il a dit, oui, il en reste un. Il fait paître les brebis. Il reste toujours là-bas, à faire de la musique, à chanter ses cantiques, à jubiler, à faire n'importe quoi. Mais c'est un petit bout d'homme aux épaules tombantes et au teint rosé. Il ne fera jamais l'affaire d'un roi. Allez le chercher! Et quand David s'est présenté devant le prophète a couru vers lui avec l'huile et il l'a versé sur sa tête. Il a dit, « Voici celui que Dieu a choisi. » Pas beau, mais un caractère. Dieu regarde au caractère. L'homme regarde à la beauté naturelle. Elle est trompeuse. Et c'est pour ça qu'il a été donné cette beauté-là à la femme pour la séduction, pour séduire. Une femme qui est belle, si elle ne l'utilise pas comme il faut, c'est une malédiction pour elle. Ça va l'envoyer en enfer plus vite que n'importe quoi. Si seulement, si elle peut être belle, bien sûr, tant qu'elle reste avec son mari et qu'elle fait ce qui est bien, c'est très bien. Mais elle peut se servir de cette même chose, et oh là là, elle peut vraiment tromper avec ça. C'est pour ça qu'elle lui a été donnée. Remarquez. Maintenant, mais Dieu se caractérise par le caractère. L'aspect de Jésus n'avait rien pour nous plaire, mais il n'y avait jamais eu de caractère comme le sien sur la terre. Maintenant, nous voyons aujourd'hui que le caractère de l'Église, Satan et son groupe, ils recherchent les belles grandes églises, les belles choses. C'est à ça que le monde regarde aujourd'hui. Oh, c'est le pasteur, le grand tel du temps, telle et telle chose, tellement sacerdotal et pieux, il s'avance avec sa grande soutane et tout. C'est ce qu'ils appellent la beauté. Mais les vrais saints de Dieu cherchent le caractère de la parole confirmée. C'est ce que les saints ont fait à cette époque-là quand ils ont vu Jésus. Ils ne payaient pas de mine, mais ils ont vu que Dieu était en lui. Ils ont vu que Dieu était avec lui. C'est comme ça qu'ont fait ces gens qui étaient avec David. Ils n'étaient pas grands, mais ils ont vu l'homme qu'il y avait en lui. Ils ont vu que Dieu était en lui et ils savaient qu'un jour il allait parvenir au pouvoir. L'un d'eux a tué les cinq autres frères de Goliath, tout seul. L'un d'eux a tué 300 hommes. Pendant que des femmes ramassaient des haricots pour le dîner et que l'armée était partie, il a pris une lance et il a tué 300 hommes, 300 philistins. Du caractère. Pourquoi? Ils ont pris position pour David. Ils savaient que l'onction était sur lui. Ils savaient qu'il allait parvenir au pouvoir. Une image parfaite de l'Église aujourd'hui qui prendra position pour la parole. Nous savons qu'elle sera confirmée. Nous savons qu'elle parviendra au pouvoir un jour. Bien que Saül, et il était en fuite devant les autres nations, mais il savait qu'il parviendrait au pouvoir. Nous aussi, nous savons qu'il parviendra au pouvoir. Alors nous prenons cette parole et nous nous y tenons quoi qu'il en coûte. S'il nous faut tailler des Philistins en pièces ou sauter dans une citerne et tuer un lion, comme l'un l'a fait, nous y allons de toute manière. Parce que c'est la façon dont Dieu a prévu qu'il en serait. Nous cherchons le caractère. Maintenant, vous allez peut-être me demander, pourquoi a-t-il permis qu'elle soit conçue ainsi? Je ne veux pas prendre trop de temps, parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Pourquoi? La question pourrait se poser donc, pourquoi Dieu a-t-il fait la femme comme ça? Pourquoi a-t-il permis qu'elle soit comme ça? C'était pour son bon plaisir. Certainement. Maintenant, si vous voulez prendre votre Bible un petit instant, prenons dans Romains 9 un petit instant et nous allons vous montrer quelque chose, que c'est Dieu qui fait ces choses, si vous voulez le lire. Et on peut voir ici ce que Dieu fait pour son bon plaisir. Romains 9, 14. Alors, que dirons-nous donc? Y a-t-il devant Dieu de l'injustice, quand il a choisi Ésaü, ou qu'il a choisi Jacob et rejeté Ésaü, avant qu'aucun des deux garçons n'ait eu le droit de choisir lui-même? Aucun des deux, avant qu'ils naissent, quand ils étaient encore dans le sein de la mère, Dieu a dit, « Je hais Ésaü et j'aime Jacob ». Voyez, pourquoi? Car il a dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à celui à qui je ferai miséricorde, et j'aurai pitié de celui de qui j'aurai pitié. » Cela ne vient donc ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité pour ceci, pour faire voir en toi ma puissance, pour que mon nom soit proclamé par toute la terre. » Il fait donc, regardez, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit celui qu'il veut. Or, tu me diras, pourquoi Dieu se plaint-il encore? Car qui peut résister à sa volonté? Mais plutôt, ô homme, qui es-tu, toi, qui conteste avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas le pouvoir de faire, d'une même masse de terre, un vase pour des usages honorables et un autre pour des usages vulgaires? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience les vases de colère préparés pour la perdition, afin de manifester aussi la richesse de sa gloire sur les vases de miséricorde qu'il a préparés pour la gloire. Maintenant, argumentez donc là-dessus. C'est Dieu qui l'a fait. Il fallait qu'il le fasse ainsi. Il fallait que ce soit là. Maintenant, regardez. Écoutez, pendant environ 5 minutes, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Qu'est-ce que Dieu ? Dieu est un grand être éternel. Au commencement, il y a très longtemps avant qu'il y ait un commencement, il n'était même pas Dieu, saviez-vous cela ? Dieu, c'est un objet d'adoration, et il n'y avait rien pour l'adorer, il vivait seul. Et en lui, il y avait des attributs. Qu'est-ce qu'un attribut ? Une pensée. Maintenant, je vais vous apporter quelque chose qui touche à la leçon de ce soir. Remarquez, il était ses attributs qu'il y avait en lui. Or, c'était en lui d'être Père, c'était en lui d'être Dieu, c'était en lui d'être Fils, c'était en lui d'être Sauveur, en lui d'être Guérisseur. Et toutes ces choses ne font que manifester ses attributs. Il n'y a rien qui soit hors de l'ordre. Pensez-vous que Dieu n'avait pas vu la fin dès le commencement? Bien sûr qu'il l'a vu. Il n'y a rien qui soit hors de l'ordre. Ces choses ne font que manifester ses attributs. Or, il ne pouvait pas être juste et faire qu'un homme tombe. Il fallait qu'il le mette sur une base d'égalité en lui donnant le libre arbitre pour qu'il fasse son choix lui-même, mais il savait qu'il tomberait. Alors il ne peut pas être un sauveur à moins qu'il n'y ait quelque chose de perdu. Il ne peut pas être un guérisseur à moins que quelque chose soit malade. Il fallait que ces choses soient comme ça. Dieu les a faites ainsi pour que ses grands attributs puissent être manifestés. S'il n'avait pas eu ça, il n'aurait jamais été un sauveur. Mais il l'était, nous le savons, même avant que le temps existe, il était un sauveur. Il était un sauveur. Alors il faut que quelque chose soit perdu. Comment cela va-t-il être possible? S'il envoie quelqu'un à sa perte rien que pour pouvoir le sauver, alors il n'y a pas de justice dans son jugement. Il ne pourrait pas être juste et envoyer un homme en enfer. Et être juste, il est bon, doux, fidèle, honnête. Il est un grand juge. Voyez, il irait à l'encontre de lui-même. Donc il fallait qu'il mette un homme ici et qu'il lui donne le libre arbitre en sachant qu'il tomberait. Et l'homme qui avait été fait à sa propre image, comment pourrait-il tomber? Maintenant, est-ce que vous voyez dans la lumière du jour? Alors, il lui a fallu faire un produit dérivé, quelque chose à partir de la création originale. Maintenant, vous le voyez, voyez? Là, vous y êtes. Voyez? Ensuite, c'est ça qui est tombé. Il l'a fait en sachant que celui-là tomberait. Et il a été remis entre les mains de Satan comme vase de déshonneur. Qu'est-ce qui est en honneur aujourd'hui? Pensez à cela. Maintenant, soyez très attentifs. D'autre part, pourquoi a-t-elle été conçue de cette façon et pas comme les autres femelles? Pourquoi la femme a-t-elle été conçue comme ça et pas les autres femelles? Aucune des autres femelles n'a été conçue comme ça. Elles ne le sont pas aujourd'hui. Elles ne peuvent pas l'être. Comme elle n'est pas faite comme ça, elle ne peut pas agir comme ça. Alors pourquoi n'a-t-il pas fait cette femelle-là, la femme, comme les autres femelles, pour qu'elle soit exactement comme les autres, pour élever ses bébés, tout simplement? À ce moment-là, elle aurait eu son mari, elle aurait vécu ainsi, quand le temps serait venu d'avoir son bébé, elle aurait eu son bébé. Pourquoi n'a-t-il pas fait comme ça? Je ne peux pas utiliser ces termes. Vous comprenez ce dont je parle? Si vous comprenez, dites « Amen ». Voyez, il y a des petites filles assises ici et des jeunes garçons. Voyez, mais vous savez que chez l'animal, il faut attendre une certaine période de l'année. Ensuite, elle a son compagnon, puis tout, c'est ça, ça s'arrête. Mais la femme, c'est n'importe quand. Et pourquoi l'a-t-il faite comme ça? Maintenant, regardez son grand plan s'ouvrir devant nous à mesure que nous avançons. C'est parfait autant que c'est possible. Je ne savais pas ça avant l'autre jour. Pourquoi ne l'a-t-il pas faite comme ça au commencement, comme toutes les autres femelles? Parce que ce ne serait pas convenable pour lui d'agir ainsi. Il est la source de toute pureté. C'est pour cette raison qu'il devait laisser Satan s'emparer d'elle. Faire ce qu'il a fait dans la perversion. Une créature comme celle-là ne conviendrait pas à sa personne. conçu comme ça à l'origine. Toutes ses œuvres qu'il a conçues à l'origine sont dans la continuité. Toutes ses œuvres originales étaient dans la continuité. Le chien femelle, le chien mâle. Voyez, la vache femelle, la vache mâle, tout est dans la continuité. Toute la nature est dans la continuité. La semence meurt, elle est mise en terre, c'est comme la mort, l'ensevelissement et la résurrection. La sève descend dans l'arbre, celui-ci laisse tomber son feuillage, il revient l'année suivante avec la résurrection d'un nouveau feuillage. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui vient de Dieu jusqu'à la nature, tout ça est dans une continuité, dans une unité. Et voici quelque chose qui a été conçu en dehors de la continuité de Dieu. La nature est ainsi conçue qu'elle ne peut pas pécher. Pensez-y, la création originale de Dieu ne pouvait pas pécher. Oh, maintenant ne voyez pas, en considérant ceci, la perversion de l'Église. L'original, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de péché en Dieu. Voyez-vous ce que je veux dire? Ici, on a une créature qui a pris naissance par une perversion. Dieu va avoir une Église, mais regardez cette chose pervertie qu'il y a ici. Dieu a les deux, le mâle et la femelle. Mais cette femme, voyez-vous, les symptômes même montrent ce qu'il y avait dans la pensée de Dieu. Nous pourrions prendre une heure ou deux et éclaircir ça. Il a fait cette créature ainsi, pour que ça se passe comme cela. Il a formé cette créature et il a fait cette façon à ce que Satan puisse s'en emparer. Il s'en est emparé et il l'a toujours sous son emprise. Elle ferait mieux de se réfugier à la croix et l'homme aussi. Remarquez, toute la nature est dans la continuité. S'il avait fait de la femme une partie de cette même création originale, alors il n'y aurait pas eu de péché parce qu'elle n'aurait pas pu faire ça. Elle n'aurait pas pu faire ça. Elle est une perversion de la création originale. De même, tout péché est une perversion de la vérité originale. Qu'est-ce qu'un mensonge? C'est la vérité pervertie. Qu'est-ce qu'un adultère? C'est un acte juste perverti. Alors, voilà la créature pervertie, voilà l'ensemble perverti, et l'ensemble s'appelle S-I-N, péché. C'est en plein là que ça se trouve. Voilà pourquoi cette question est si importante. Seulement un morceau, un fragment formé à partir d'un homme qui va servir à le séduire. Dieu l'a formé, on en a la preuve ici, c'est pour ça qu'elle a été faite. Une femme immorale, c'est la chose la plus basse qu'on puisse imaginer sur terre. Pardonnez-moi cette expression, les jeunes dames. Elle n'est rien d'autre qu'une poubelle humaine, un étalage de sexe. Voilà tout ce qu'elle est, une femme immorale. C'est un bac à ordures sexuel humain, une pollution, dans laquelle on jette de la souillure, de la crasse, des saletés méprisables. C'est là qu'on le jette. Pourquoi est-elle faite comme ça? Pour séduire. Tous les péchés qu'il y a eu sur terre ont été causés par une femme. Un statisticien de Chicago, une femme avait rédigé un article là avec la police. Ils avaient fait une étude et aux États-Unis, dans les grandes villes des États-Unis, pour 98% de tous les crimes qui ont été commis aux États-Unis, sous n'importe quelle forme, il y avait soit une femme impliquée, ou bien qui en avait été la cause. Maintenant, si je dis tout ça, c'est pour en arriver à un point ici à la fin, pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Elle a été faite pour séduire, comme elle l'a fait avec Adam au commencement, en lui disant que le fruit était agréable et pourtant pour le séduire, l'éloigner de la parole. C'est comme ça que l'Église s'y prend aujourd'hui, même chose. Mais ensuite, après cela, il est devenu son chef pour dominer sur elle. Maintenant, comme c'est différent aujourd'hui en ce jour de conception, plutôt qu'il soit son chef, c'est elle qui est devenue son Dieu. Certainement. C'est elle qui domine sur lui. Maintenant, probablement vous comprendrez ce que j'ai attaqué dans le passé par sa beauté, sa maîtrise sexuelle, ses formes qui lui ont été données par Satan, le produit dérivé que Satan a fabriqué, elle est envoyée pour séduire des fils de Dieu et elle peut entraîner un plus grand nombre d'entre eux en enfer que tous les autres instruments que Satan possède. C'est tout à fait exact. Je parle de celle qui était morale là, pas vous les sœurs. Dans quelques instants, nous allons vous donner votre place, votre vraie place dans la parole de Dieu. C'était selon le plan de Dieu dès le commencement. Alors, pour accomplir ceci aujourd'hui, quel est le Dieu des États-Unis? Vous vous souvenez que j'ai prêché là-dessus il y a des années au tabernacle? Le Dieu de cet âge moderne, une petite dévergondée assise là, toute maquillée, et la robe remontée au-dessus des genoux, et tout ça, j'ai dit, voici votre Dieu. Et c'est vrai. Elle est sur toutes les réclames, à moitié nue. Elle est pareille dans la rue. C'est un instrument de Satan. Au commencement, a dit Jésus. Voyez, nous voyons que c'est comme ça maintenant, au commencement, et de quoi il parle. Or, autrefois, les païens faisaient d'elle un dieu, et vous savez, une déesse, assurément. Ils font d'elle une déesse. En effet, il y avait des actes sexuels qui faisaient partie de leur culte. Ils prétendent qu'elle était une créatrice, qu'elle portait la semence dans son sein et qu'elle créait. C'est un mensonge. Il n'y a qu'un créateur et c'est Dieu. Vous vous souvenez de Paul, là, la Diane d'Éphèse, une sculpture en pierre dont on disait qu'elle était la déesse du ciel qui avait été précipitée. Et ne voyez-vous pas comment opère le culte païen? Et nous, sans le savoir, nous retournons tout droit au culte païen des femmes, de la créature la plus vile de la terre. Le culte de la femme, elle va entortiller les hommes comme elle veut, et sans savoir que derrière toutes ces beautés de l'extérieur, il y a l'enfer à l'intérieur. Salomon a dit, ces portes, ce sont les portes de l'enfer. Maintenant, nous voyons clairement là de quoi Jésus parlait dans Apocalypse au chapitre 2 et au verset 15, au sujet de la doctrine des Nicolaïtes, cette église qui allait venir et qui s'éloignerait de la parole. Et nous pouvons aussi voir clairement ce qu'il en est de ces émissions vulgaires, impies, dégoûtantes qu'on voit à la télévision, ces reines du sexe de Hollywood. Nous pouvons voir la souillure de cette ville, alors que les enfants, les jeunes filles se promènent dans la rue là, avec des tout petits vêtements serrés dans le dos et se tortillant, et qu'il fait assez froid pour les geler debout. Elles ne savent pas que c'est le diable qui leur fait faire ça. Elles sont possédées d'un mauvais esprit et elles ne le savent pas. Vous ne voyez pas une chienne agir comme ça, n'est-ce pas? Vous ne voyez aucune autre femelle agir comme ça et aucun mâle ne s'aviserait de s'approcher d'elle non plus. Voyez? Maintenant, vous voyez le tableau? Nous allons aborder quelque chose dans un petit instant, si le Seigneur le veut. Maintenant, vous voyez les Nicolaïtes, vous voyez leur doctrine, vous voyez les reines de l'adolescence, comme ils les appellent. Ces striptease dans la rue. Avant, il fallait un spectacle vulgaire pour voir un striptease. Ouvrez simplement les yeux et regardez dans la rue. C'est tout ce que vous avez à faire maintenant. Tout est un striptease, certainement. Pourquoi? Pour aguicher, pour tenter. C'est la seule raison qu'elle peut avoir. Elle le fait parce qu'elle est impure. Elle le fait parce qu'elle est faite comme ça. Elle ne se rend pas compte qu'elle est un instrument dans les mains de Satan. Et c'est bien ce qu'elle est. Même dans nos écoles aujourd'hui, ils enseignent les actes sexuels. Notre monde pourri du culte de la femme. Je sais qu'ils ne veulent pas le croire. Ils vont se tenir là, chanter une espèce d'hymne et tout. Un certain jour, ensuite, ils fricotent avec les femmes. Ils sortent toute la nuit. Vous voyez? Très bien. Alors qu'aux yeux de Dieu, de la parole, elle est ce qu'il y a de plus vil de tous les animaux que Dieu a placés sur la terre. Regardez. C'est pour ça que Dieu lui interdit d'enseigner la parole. C'est exact. 1 Timothée 2, de 9 à 15. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre aucune autorité. Et aussi 1 Corinthiens 14, 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, car elles ont reçu l'ordre de se taire, selon que le dit aussi la loi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'Église fait? Elles en font des pasteurs, des évangélistes. Alors que la Bible l'interdit formellement. Et la Bible dit, selon que le dit aussi la loi, ce qui maintient tout dans la continuité, C'est comme l'agneau hier soir, le seul lieu d'adoration, sous le sang versé de l'agneau, c'est le seul lieu aujourd'hui, en Christ. La seule chose à faire, c'est d'entrer en lui. C'est le seul lieu d'adoration, il a toujours été ainsi. Le seul lieu d'adoration, c'est sous le sang versé. Donc maintenant, nous voyons tout le tableau d'ensemble qui s'ouvre devant nous. La voilà. C'est pour ça que Dieu ne lui permet pas d'enseigner, ne lui permet pas de faire quoi que ce soit dans l'Église, à part rester tranquillement assise, le visage voilé. Maintenant, voyez-vous pourquoi j'ai dit les choses que j'ai dites et fait les choses que j'ai faites, alors que je savais tout ça dans mon cœur, frères, sœurs. Je sais, les sœurs, vous avez votre place dans un petit instant, et le caractère merveilleux que Dieu peut façonner en vous. Mais là, j'essaie simplement d'apporter l'autre côté pour montrer d'où vous provenez, en fait, au commencement. Jésus nous a dit de nous reporter au commencement pour savoir ce qu'il en est. Et c'est tout ce que nous faisons. Maintenant, j'ai été obligé de me limiter aux grandes lignes pour beaucoup de points. Alors, j'espère que vous comprenez ce qu'il en est. Et quant à vous, les gens qui écouteront les bandes, j'espère que vous comprendrez. Retournez en arrière, tout simplement, et voyez ce qu'il en est. Reportez-vous au commencement. Vous pouvez voir ce qu'il en est aujourd'hui. Eh bien, les gens, ils disent que je suis un misogyne. C'est loin d'être la vérité. Je n'en suis pas un. Ils disent un misogyne. Souvenez-vous, ils ont traité Paul de misogyne. Il n'y a pas longtemps, une femme prédicateur disait « Oh, vous êtes comme le vieux Paul. » Tout ce qu'il trouvait à faire, c'était rouspéter après nous, les femmes. Un saint de Dieu à qui il a été permis d'écrire la Bible, le Nouveau Testament. Et contester ses paroles, il a dit « Quand un ange du ciel enseignerait autre chose que ce que je vous annonçais, qu'il soit anathème. » Et à plus forte raison, une femme prédicateur. Ils ont dit d'Élie que c'était un misogyne. Ce n'était pas un misogyne pour ce qui est des vraies femmes. Il n'aimait pas les Jézabel, c'est tout. Et si c'était le cas, alors il faut nécessairement que ce soit pareil pour Dieu, parce qu'il est la parole qui est venue aux prophètes. Donc il faut que ce soit pareil pour Dieu. Donc voyez-vous, il connaît la création originale dès le commencement, a-t-il dit. Dès le commencement. C'était des prophètes à qui la parole est venue. Et elle, il l'a créée pour l'homme, et non l'homme pour elle. Saviez-vous cela? Que la femme a été créée pour l'homme, et non l'homme pour la femme. Combien le savent? La Bible l'enseigne, très bien. Elle a reçu une position avec l'homme. Avant la chute, elle était son égale et gouvernait toute la création. Seulement après la chute. Bon, là nous abordons le sujet. Mais après la chute, il est devenu son chef. Elle doit demeurer dans le silence sur toutes les questions. Maintenant, après que le commencement original est terminé, Jésus a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça, c'est quand le temps a commencé. D'abord, quand Dieu a procédé à sa création originale, tous ceux qui comprennent disent encore Amen. Au commencement, Dieu a créé un seul mâle et une seule femelle. Mais après, la femme a été faite différemment des animaux, de tous les autres animaux, et ce pour la séduction. Maintenant, regardez bien. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Elle a été faite et elle est demeurée dans son état original. Il n'aurait jamais eu de chute. Mais elle a causé la chute et l'interruption qui a rompu toute la continuité de Dieu et a répandu la mort, le chagrin et tout le reste sur la terre. Elle a été faite ainsi. Maintenant, remarquez. Donc, après le commencement, après que le temps a commencé, avant ça, c'était l'éternité. C'est terminé. Remarquez, après que la chute a été causée par Ève, après la chute, une autre alliance a dû être faite. Ceci va vous achoper. Mais je vais vous donner le passage de l'Écriture pour prouver que c'est la vérité. Donc, remarquez, après la chute, Jésus a dit, Dieu, au commencement, en a fait un de chaque espèce. Mais maintenant, après la chute, nous allons plus loin. L'alliance en était une d'égalité. Mais maintenant, après la chute, une autre alliance a été faite. Maintenant, elle ne gouvernait plus avec lui. Chacun devait avoir une alliance séparée. Maintenant, voyons si c'est exact. Prenons Genèse 3 et voyons si c'est exact là. Alors que nous avançons, en effet, nous voulons être sûrs que ces choses qui sont enseignées, mises en évidence, sont tout à fait vraies. Aussi, peut-être que nous avons un peu de temps en ce moment, car nous ne sommes pas très loin de la fin, avant d'arriver à la conclusion de ce sujet, montrer le pourquoi et ce qu'il en est des divorces et tout. Donc, dans la Genèse au chapitre 3, nous allons commencer là au chapitre 3 et au verset 16. Commençons au verset 14. Et l'Éternel dit au serpent, c'est là qu'il va le maudire, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La promesse qui allait venir à travers la femme, le Messie, pour racheter. Et il dit à la femme, maintenant regardez, voilà l'alliance qui a été faite avec le serpent. Et avant, tout allait bien pour tout le monde, au commencement. Ou avant le commencement. Il dit à la femme, « J'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, et il dominera sur toi. » Ils ne sont plus du tout égaux. Voilà que maintenant, elle a fait volte-face, et c'est elle qui domine sur lui. Et il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit. » Ce n'est pas Adam qui est maudit là. « Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Deux alliances. Voilà ce qui clôt le commencement dont Jésus disait « au commencement, il n'en était pas ainsi ». On a une autre alliance maintenant. Remarquez. C'est une autre alliance. Maintenant, il y a une alliance pour le produit et une pour le produit dérivé. Remarquez, la chute a entraîné dans la détresse et la mort toutes les créatures de la création, a entraîné un changement dans toute la nature. Maintenant, remarquons ce dont Jésus parlait quand il a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Maintenant, ce n'est pas « au ». Maintenant, c'est « après le commencement ». Maintenant, il y a une alliance double. Au départ, il n'y avait qu'une alliance. Adam et Ève étaient égaux, un homme et une femme. Or, la femme a péché. Et qu'est-ce qu'elle provoque? C'est ce qui les a tous entraînés dans la mort, et Dieu a dû faire une alliance à cause de ça, une autre alliance. La voilà ici même, dans Genèse 3, 16. Il a fait une autre alliance. Maintenant, le monde doit être repeuplé, pas par la création originale de Dieu, comme au commencement, pas par la création originale, mais par le désir sexuel. Voilà qui met le point final au commencement, n'est-ce pas? Au commencement, il n'y avait qu'un seul homme et qu'une seule femme, un mâle et une femelle. Mais une fois qu'elle a traversé la ligne et qu'elle a introduit ce péché, voilà que maintenant le monde doit être repeuplé de nouveau par le sexe, pas par la création, par le sexe. Vous voyez ce qu'il en est de la femme maintenant? Maintenant. Mais c'est par ce moyen-là que le monde est peuplé aujourd'hui, à travers les femmes. C'est pour cette raison que Jésus a dû venir à travers la femme pour ramener ça au commencement original de nouveau, sans désir sexuel. Il est né d'une vierge. Mais alléluia! Il viendra un temps où il n'y aura plus de sexe, mais où Dieu appellera ses enfants, les prendra de la poussière de la terre. Ils seront de nouveau comme à l'origine, pas par l'entremise d'une femme, mais pétris à partir de l'argile, des lumières cosmiques et du pétrole. Il va créer de nouveau comme il a créé Adam la première fois. Jésus a rendu cela possible quand Dieu s'est fait homme et qu'il est venu dans le monde par l'entremise de cette femme pour pouvoir mourir. Maintenant, c'est le temps du test par le péché. Vous voyez, Ensuite, après le commencement, quelque chose d'autre a été introduit. Ceci va donner un choc. Êtes-vous fatigué? Restez assis tranquillement encore un petit peu. Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, une alliance complètement différente, pas l'alliance originale, mais une autre alliance. Maintenant, qu'est-ce qui est introduit? La polygamie. En toute chose. Donc, après le commencement, la polygamie a été introduite à la fois chez l'homme et chez les animaux. Après le commencement, la chute. Voilà que Dieu, maintenant en second lieu, met de nouveau en place une nouvelle nature par le sexe. Dieu a créé la première sans le sexe. Le croyez-vous? Maintenant, il s'agit d'une autre alliance avec la nature. Il la met à un autre rang par le sexe. La deuxième alliance. Un mâle, beaucoup de femelles. Un cerf, tout un harem de biches. Pas vrai? Un taureau, tout un troupeau de bétail, de vaches. Un coq, une basse-cour pleine de poules. Pas vrai? Un David selon son cœur, avec 500 femmes. Et 100 enfants qui lui naissaient chaque année de femmes différentes. Un homme selon le cœur de Dieu. Un Salomon avec 1000 femmes. Mais remarquez, au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais maintenant, on est après le commencement. La femme a fait cette chose-là. Alors, elle devient simplement ce qu'elle est maintenant. Voyez? David, le roi qui représentait Christ. Ne perdez pas ça de vue. David représentait Christ. Le voyez-vous? Le croyez-vous? Christ est assis, s'assiera sur son trône. Et ce David, un homme selon le cœur de Dieu, avait 500 femmes. Vous voyez ce que je veux dire? David avec ses 500 femmes. Salomon avec ses 1000. Et Salomon est le fils de David dans le naturel, et il représente Jésus-Christ, le fils de David, dans le spirituel. Or, dans ce cas-là, c'était la vie naturelle par le sexe. Ici, ce sera celle qui est spirituelle, créée. Créée, voyez-vous, c'était comme ça au commencement. Mais pas maintenant, dans cette vie que nous vivons maintenant. Remarquez, ne manquez pas ceci maintenant. Faites descendre tout ça dans vos cœurs. Mais pas même une seule de ces femmes ne pouvait avoir un autre mari. Il est la création originale, pas elle. Pas une seule de ces femmes ne pouvait avoir un autre mari. Mais ce mari-là, lui, il pouvait avoir 1000 femmes. C'est ainsi dit le Seigneur, c'est la Bible. Or, je suis retourné en arrière, j'ai pris mon temps, je vous ai montré où ça a commencé là-bas, ce que Jésus avait dit. Maintenant, le voyez-vous clairement? Il pouvait en avoir autant. Vous dites, ça c'était seulement pour Israël. Ah oui? Quand Abraham a emmené Sarah au pays des Philistins, il y avait là un roi du nom d'Abimélec. Et Sarah avait 100 ans, tout près de 100 ans, mais elle avait été changée, elle était redevenue une jeune femme, avait retrouvé la beauté, vous savez ça? Et Abimélec voulait l'avoir pour femme. Vous vous souvenez de mon message là-dessus? Abimélec voulait prendre Sarah pour femme. Il disposait probablement d'un harem, mais il ne pouvait pas la prendre si elle était mariée avec Abraham. Alors Abraham a dit à Sarah, « Dis que tu es mon frère, sinon il me tuera pour pouvoir te prendre. » Pourquoi n'a-t-il pas tout simplement chassé Abraham du pays, pris sa femme et continué comme ça? Ce n'était pas seulement une loi pour les croyants, mais pour tous les gens de la création. Pécheur ou saint, tu es responsable, toi, homme, de tels actes. Là, il s'agissait d'un roi païen. Combien savent que cette histoire est vraie? C'est la Bible. Genèse, vers le chapitre 16, je pense. Si vous remarquez, Abimélec l'aurait prise pour femme. Il s'était préparé à prendre cette nouvelle jeune fille israélite et il a dit, c'est mon frère, il a dit, c'est ma sœur. Alors Abimélec a dit, dans ce cas, je vais simplement la prendre pour femme. Pouvez-vous imaginer un homme qui ferait une chose pareille? Mais c'est ce qu'il a fait. Et puis cette nuit-là, pendant qu'il dormait, le Seigneur lui est apparu en songe et lui a dit, « Abimélec, considère-toi comme un homme mort. » Il protégeait cette lignée de sang juif-là, vous voyez. Il a dit, « Considère-toi comme un homme mort. C'est la femme d'un autre homme que tu es sur le point d'épouser. » Il a dit, « Seigneur, tu sais que j'ai un cœur pur. » Il a dit, « Ne m'a-t-elle pas dit que c'était son frère? Ne m'a-t-il pas dit lui-même, c'est ma sœur ?» Il a dit, « Je connais l'intégrité de ton cœur. Et c'est pour cette raison que je ne t'ai pas laissé pécher contre moi. » Pas vrai? Il a dit, « Redonne-lui sa femme, parce que cet homme est mon prophète. Si tu ne lui rends pas sa femme et qu'il prie pour toi, pas ton prêtre, s'il ne prie pas pour toi, ce sera la fin de toute ta nation. » Voilà la grâce étonnante. Ce sera la fin de toute ta nation. Elle est la femme de cet homme, et lui, c'est mon prophète. Amen. C'est ainsi dit le Seigneur, c'est l'Écriture. Maintenant, nous voyons que la mort a été causée par la mort. C'est à cause du péché de la femme. Elle est venue par la femme et non par l'homme. C'est par sa manière de vie et par elle que toute mort survient. Sa manière de donner la vie, c'est la mort. Combien savent cela? Job 14, si vous voulez noter la référence biblique. Si vous remettez cela en question, j'ai noté les références bibliques pour tous les points que j'apporte. Si vous voulez lire Job 14, là il est dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Pas vrai? Il naît, il est coupé comme une fleur, il perd sa forme, sa force et tout, voyez. Tout homme né de la femme naît dans la mort dès qu'il vient au monde. Mais quand il naît dans la création de Dieu, il ne peut pas mourir. Il vient de cet autre arbre qui était dans le jardin d'Éden, Christ. La vie éternelle est venue de cet arbre. Oh, vous dites, elle était un arbre, certainement. Eh bien, ils ont dit, « Tu ne mangeras pas de cet arbre, » Dieu a dit dans la Genèse. « Tu ne mangeras pas de cet arbre-là. » Eh bien, la femme est cet arbre, elle est un arbre fruitier. Vous êtes le fruit de votre mère, le fruit du sein. C'est vous. C'est exact. D'autre part, le fruit de l'arbre de la vie qui se trouvait dans le jardin d'Éden, c'est Christ. À travers la femme est venue la mort. À travers l'homme, dans la création originale, est venue la vie. Naître d'une femme, c'est la mort. Naître de Christ, c'est la vie. Vous saisissez l'idée? Maintenant, vous voyez où les déesses sont allées, n'est-ce pas? Les premiers Adam et Ève typifiaient les seconds Adam et Ève. Vous voyez la multiplication. Or, la multiplication d'Adam et Ève s'est faite par le sexe pour remplir la terre, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu avait fait seulement un homme et une femme comme il avait fait pour ses autres créatures. Vous voyez, c'était légal, tout comme l'Église. Maintenant, prenons en considération ces vérités confirmées de Dieu. Continuons à avancer notre recherche, si vous voulez. Très bien. Ceci va peut-être faire un peu mal jusqu'à ce qu'on soit arrivé au fond de la question, mais je vais vous montrer que c'est la vérité. Aucun ministre ne peut épouser une veuve. Saviez-vous cela? Voulez-vous le lire? Très bien. Prenez Lévitique, Lévitique 21:7 et Ézéchiel 44:22. Et vous y verrez que le sacerdoce ne devait pas épouser une femme qui avait été touchée par un homme. C'est le type de l'épouse vierge de Jésus-Christ. Parce que les sacrificateurs, les fils d'Aaron, c'est eux qui manipulaient le feu de Dieu. Nous n'avons pas le temps de tout lire si nous voulons sortir avant midi, il nous reste encore que 20 minutes. Eux, c'étaient les fils d'Aaron qui manipulaient le feu de Dieu. Alors, ils ne pouvaient pas épouser une femme qui avait été touchée par un autre homme. C'est le Dieu qui ne change pas qu'il a dit. Il ne pouvait pas épouser une autre femme, une femme qui avait été touchée par un homme, ce qui montrait en forme ici, si vous voulez le voir, que l'Église du Dieu vivant est la parole de Dieu pure et sans mélange, et non une dénomination qui a été manipulée par l'homme. Notez, lisons ceci, je veux vous faire comprendre cela. Dans Matthieu 5, Jésus a parlé ici de quelque chose qui est vraiment d'une importance capitale. Nous voulons le voir. Matthieu 5, J'ai écrit, j'ai noté certaines choses que j'avais l'intention de dire seulement aux hommes. Alors, ça n'a vraiment pas été facile de le dire devant nos sœurs, mais je vais aborder ceci maintenant aussi. Maintenant, sœurs, je vais vous mettre à la place qui vous est promise par la parole de Dieu. Et alors, restez à cette place. Matthieu 5, 32. Je voudrais vous faire remarquer ici, c'est quelque chose qui vient appuyer cette même idée de un et beaucoup. Matthieu 30, je pense que c'est Matthieu 5, 32. Commençons au verset 31. Il a été dit aussi, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. C'est Jésus qui parle, celui qui a dit au commencement. Mais moi je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est en cas de fornication, l'a fait commettre adultère. Voyez-vous, quiconque répudiera sa femme, si ce n'est à cause de fornication, l'a fait commettre adultère. Pourquoi ? Elle va se remarier. Et quiconque épousera une femme répudiée, divorcée, commet adultère. Vous voyez, elle a un mari vivant, alors aucun homme ne peut l'épouser. Peu importe ce qu'elle fait et qui elle est, si elle a un mari en vie, elle ne peut absolument pas, pour aucune considération, mais ça ne s'applique pas à lui. L'a fait commettre, pas lui. Vous saisissez, on doit garder la parole dans sa continuité, voyez-vous. Il n'y a rien qui dit que lui ne pourrait pas, mais elle, elle ne le peut pas. Vous voyez, l'a fait commettre, elle, pas lui. C'est exactement ce que la Bible dit. L'a fait commettre, elle. Il n'est pas spécifié que lui ne peut pas se remarier, mais elle. Pourquoi ? C'est Christ sous forme de type. Remarquez, il est spécifié qu'il ne peut pas se remarier à moins d'épouser une vierge. Il peut se remarier si c'est avec une vierge, mais il ne peut pas épouser la femme d'un autre, absolument pas. Et si jamais il épouse une femme qui est divorcée, il vit dans l'adultère, peu importe qui il est. La Bible dit quiconque épouse une femme répudiée vit dans l'adultère. Voilà. Pas de divorcé, absolument pas. Voyez-vous ce qui était l'original là-bas au commencement ? Se remarier, maintenant remarquez. Lui, il peut, mais elle, non. Comme David, comme Salomon, comme toute la Bible dans sa continuité, comme David et tous les autres. Si vous remarquez, dans 1 Corinthiens 7, 10, remarquez, Paul ordonne à la femme qui divorce d'avec son mari, de rester seule ou de se réconcilier, de ne pas se remarier. Elle doit rester seule ou se réconcilier avec son mari. Elle ne peut pas se remarier. Elle doit rester seule. Mais remarquez, il n'a jamais parlé de l'homme. Vous voyez, on ne peut pas faire mentir la parole. Au commencement, la loi du sexe par la polygamie. Or, la parole de Dieu est vraie d'un bout à l'autre. Elle s'accorde avec la nature que Dieu a créée. Elle est dans la continuité. Voyez-vous qu'une école est partie à l'est et l'autre est partie à l'ouest sur la question? Il faut revenir à la vérité pour voir ce qu'il en est. Il en a toujours été ainsi. C'est l'alliance normale avec Dieu au commencement. D'abord, avant le commencement, au commencement, c'était seulement un et une. Après que le péché soit entré, alors c'était un homme et un groupe de femmes. C'est comme ça dans la nature, chez tous les animaux et les êtres humains. La chair naturelle, elle est animale. Nous sommes des mammifères, ça nous le savons tous, voyez. C'est la nature que Dieu a créée dans sa continuité. Mais maintenant que les sceaux sont ouverts, l'Esprit de vérité nous dirige vers la parole. C'est ce qui explique toutes les erreurs qui ont été commises au cours des âges. C'est parce que les sceaux n'étaient pas ouverts. Ceci n'était pas révélé, c'est vrai. Remarquez, on ne peut pas se tromper en suivant les ombres, comme je vous l'ai prêché hier soir au sujet de l'ombre qui est projetée sur le sol. Ça ne peut pas faire autrement que de donner quelque chose de juste. Comment l'ombre d'un éléphant peut-elle se projeter sur le sol et que ce soit un petit bout d'homme chétif qui corresponde à cet éléphant, ou bien l'éléphant qui corresponde à un petit homme chétif? Maintenant, si vous voulez observer le type parfait, il existe une femme véritable. Une femme véritable, vierge, qui épouse son mari et qui vit ainsi, et celle-là est une bénédiction pour cet homme. Si Dieu avait pu donner à son fils quelque chose de mieux qu'une épouse, il le lui aurait donné. Mais elle est conçue en vue de l'acte sexuel. Et aucun autre animal n'est conçu de cette manière-là. Aucune autre créature sur Terre n'est conçue de cette manière-là. C'est pour cette raison que vous voyez la polygamie. C'est à cause de ça. C'est ce qu'il a introduite. Maintenant, regardez. En dernière analyse, regardez. Il y a un Jésus-Christ, pas vrai? Un homme, Dieu, Emmanuel, le croyez-vous? Mais sa femme est formée de beaucoup de membres. Des milliers, de milliers, de milliers. Pas vrai? Sa femme, l'épouse, l'Église. Vous comprenez maintenant? C'est pour ça qu'il a dit à Adam, avant même que le sexe soit induit ou introduit, multipliez, remplissez la terre. Alors qu'il était encore au commencement, alors qu'il était encore homme et femme, les deux en lui-même. Alors on voit par là que l'épouse doit venir de la parole. Par multiplication spirituelle, voyez-vous, pour remplir la terre. Maintenant, dans l'acte sexuel, vous voyez, les écoles ont confondu ces deux choses-là. Par conséquent, on ne peut pas faire ça. Il faut se reporter à la vérité sur le sujet, au commencement. Et à la fin, il y aura un Seigneur Jésus et son épouse sera formée de beaucoup de membres au singulier. Vous saisissez? Il y avait un David sur un trône, un roi, selon le cœur de Dieu, qui avait 500 femmes. Jésus, assis sur son trône, alléluia, dans le millénium, avec une épouse, comme il en était au commencement, tirée de la terre, créée par la main du Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection, formée de beaucoup de membres. Voilà. Femmes, efforcez-vous d'être cela. Entrez en Christ, et alors vous ne serez pas dans ce sale fouillis là-bas. Mais tant que vous êtes seulement un membre d'Église, que vous essayez par vous-même de mener une bonne vie, une vie morale, vous n'y arriverez jamais. L'homme non plus ne peut pas y arriver en dehors de Christ. Comme Paul le disait ensuite, mais ils sont en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, ils sont tous un. Mais pour ce qui est de redresser cette question de mariage et divorce, pour que vous sachiez qui avait raison et qui avait tort, là, il le montre de façon très claire ici dans ces types. Il y a un seul Christ et beaucoup de membres qui forment cette épouse. Remarquez, lui, il peut nous répudier pour cause de fornication spirituelle et de fausses doctrines quand il le désire. Mais comment oseriez-vous essayer de le répudier tout en pensant y arriver? L'homme peut répudier sa femme et en épouser une autre, mais la femme ne peut pas répudier son mari et en épouser un autre. Voyez-vous toutes les ombres et les types là-bas, dans un équilibre parfait? Voyez-vous la création originale? Pas le produit dérivé, nulle part, pas l'Église, mais l'épouse par la parole, pas la femme, mais l'homme, chaque fois. C'est pour ça qu'il n'est jamais dit que l'homme ne puisse pas le faire, c'est toujours la femme. C'est tout à fait exact, mais elle peut être l'épouse de Christ. Souvenez-vous, elle est une partie de l'homme. La Bible déclare, « Toutefois, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est le produit dérivé qui a été séduit, et elle sera néanmoins sauvée si... » Si elle persévère dans la sainteté et dans la modestie et en devenant mère et tout, parce qu'à ce moment-là, elle devient une partie de cet homme. C'est ce qui fait. Pourquoi Abraham, pourquoi Dieu n'a-t-il pas tué Sarah assise là? A-t-elle nié, a-t-elle menti à Dieu en face? Il était assis là comme un homme mortel, il mangeait de la viande, il mangeait du pain, il buvait du lait. Et il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri là derrière? Elle était derrière lui dans la tente, il ne l'avait pas vue en disant, comment est-ce possible? Elle a dit, je n'ai jamais dit ça. Oh là là, dire à Dieu en face qu'il est un menteur? Mais il ne pouvait pas la reprendre. Pourquoi? Elle fait partie d'Abraham. Il ne pouvait pas lui faire de mal sans faire de mal à Abraham. Maintenant, vous les femmes, vous voyez quelle est votre place. Et la Bible dit, vous les femmes, soyez comme Sarah, qui se vêtait d'une manière décente, qui était loyale et fidèle à son mari, et qui l'aimait tellement qu'elle l'appelait son Seigneur, son chef, sa propriété. Et certaines d'entre vous, les femmes, qui mettaient ces vêtements dégoûtants et qui sortaient pour vous montrer comme ça devant les hommes, Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Alors, qui est coupable, l'homme ou vous? Il est un mâle. Il est fait pour assumer cet acte. Voyez. Et vous, vous êtes la femme qui devrait refuser. Et pourquoi sortez-vous habillée comme ça? Ce n'est pas pour le confort. Vous savez bien, ça ne peut pas être pour ça, alors que vous mourrez presque de froid avec vos shorts. Ça ne peut pas être pour le confort. Alors qu'est-ce que c'est? C'est pour la souillure. Vous ne voulez pas l'admettre, mais c'est la Bible qui le dit. C'est la vérité. C'est un esprit impur qui est en vous. Vous ne voulez pas être impur, mais vous ne vous rendez pas compte que spirituellement, vous êtes impur, puisque vous vous présentez dans cette tenue impure. Maintenant, un homme avec les genoux noueux, même s'il n'avait pratiquement rien sur le dos, ça ne changeait rien. Son corps n'est pas très tentant. Pourquoi? Il faisait partie de la création originale, le caractère. Mais vous, vous êtes le produit dérivé qui sert à tenter. Que Dieu ait miséricorde, oh là là. Ce monde de péché. Je serai content quand ce sera fini. Remarquez. Il peut répudier sa femme quand il le veut, mais elle ne le peut pas. Il peut me faire mordre la poussière chaque fois qu'il le décide. Mais oh frère, que je ne m'avise jamais d'essayer de lui faire mordre la poussière, lui, je serais fini, ça serait fini de moi. Salomon pouvait épouser n'importe quelle femme qui n'était pas mariée. Il pouvait épouser n'importe quelle femme qu'il voulait. Un sacrificateur pouvait seulement épouser une femme qui était vierge. Salomon, David, il avait épousé Abigail. Il y avait un homme qu'on appelait le fou. Il avait une gentille épouse et il est mort. Et Abigail est devenue l'épouse de David. C'était un roi, pas un sacrificateur, voyez. Alors il s'est marié, mais un sacrificateur ne pouvait pas faire cela, parce qu'il aurait touché ou pris une épouse, une femme qui avait déjà été l'épouse d'un autre homme. Alors on voit par là la virginité de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. L'épouse devra être la parole non adultérée, pas une seule parole qui manque nulle part. Certainement. Pouvez-vous imaginer une épouse normale à qui il manquerait un sein et dont l'autre aurait quelque chose de travers? Vous savez, ce n'est pas comme ça qu'est l'épouse de Christ. Elle est parfaite. Elle est entièrement la parole. Pas une seule parole qui fait défaut, nulle part. Non. Remarquez, lui peut la répudier, mais elle ne le peut pas. Il l'a fait, il l'a démontré à l'époque de Luther, de Wesley, du pentecôtisme, quand ils ont refusé de devenir une plus grande partie de lui par un rapport sexuel spirituel où ils auraient été fécondés par une plus grande partie de la parole. Vous comprenez? Elle a refusé, l'Église luthérienne a refusé que Christ la désire davantage. Luther a refusé. Et permettez-moi de dire ceci, vous allez me traiter de quelque chose de toute façon. Il en est de même aujourd'hui pour chacune d'elles. Elle n'accepte pas la parole, elle refuse Christ. Et toute femme qui refuse de donner un enfant à un homme n'a pas le droit d'être son épouse. Amen. Vous vous souvenez dans la Bible, quand le roi a épousé Esther, parce que la reine avait refusé, il en a simplement pris une autre. Et qu'est-ce qui s'est passé quand elle a refusé de paraître avec le roi et de lui obéir? C'est la même chose pour une femme qui refuse d'être une épouse pour son mari. C'est la même chose pour l'Église qui refuse d'être fécondée dans l'âge où nous vivons maintenant pour produire des enfants de cet âge. Nous ne sommes pas des luthériens, nous ne sommes pas des wesleyens, nous ne sommes pas des pentecôtistes non plus. Nous devons être les enfants de cet âge-ci par la fécondation de la parole de Dieu pour produire un enfant de cet âge, l'enfant semence. Amen. J'espère que vous comprenez. Elle ne pouvait pas être fécondée, non. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a répudiée, a divorcé d'avec elle. C'est exact. Mais qu'elle ne s'avise jamais de le répudier. C'est lui qui l'a répudiée. Et il a continué à révéler sa parole au corps et à confirmer lui-même qu'il s'agit bien de lui. Ses enfants se sont mis à lui ressembler de plus en plus parce que tout cela arrive à une pleine maturité. Autrement dit, ils deviennent des enfants de la parole, pas des enfants de l'Église, des enfants de la parole. Et l'épouse sera une charmante petite dame de la parole, non adultérée, qui n'a pas été touchée par une organisation d'hommes, par aucune théorie d'hommes. Elle sera purement l'épouse de la parole non adultérée. Amen, amen. J'espère que vous saisissez, vous qui êtes à l'écoute. Elle sera la fille de Dieu fécondée. Vous voyez de quel grand honneur la femme peut être l'objet. Vous voyez comme l'Église peut être grande, mais où sa souillure l'a menée. Et ensuite, comparer l'Église du dehors avec cette Église-ci, vous ne pouvez pas le faire. Comparer la prostituée avec l'Église du Dieu vivant, ou la femme correcte avec une prostituée. Pourquoi ces choses? C'est une loi de Dieu. La loi des contrastes. Comment apprécier la lumière du jour s'il n'y avait pas la nuit? Comment apprécier le temps sec s'il n'y avait pas la pluie? Comment pourrions-nous apprécier et respecter une vraie femme s'il n'y en avait pas une impure? Il a continué à la révéler, à révéler sa parole, mais que personne d'entre nous ne s'avise d'essayer de le répudier et d'en épouser un autre. Maintenant, certainement, c'est clair pourquoi les deux théories sont fausses. Vous ne pouvez pas partir dans cette direction-ci, ce serait fichu, partant par là. Voici la promesse. Voici ce qu'il en est ici même. Il n'y a aucune contradiction dans la parole. Elle doit garder sa continuité. Donc, pas plus que Matthieu 28, 19 n'est en contradiction avec Actes 2, 38. Il y en a certains parmi vous, les femmes, les hommes, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec cela. Vous savez, vous ne pouvez pas le cacher en ce moment. Vous ne le pouvez pas. Mais laissez-moi vous montrer quelque chose. Si Matthieu 28, 19 dit « Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », et que par la suite, toutes les personnes qui ont été baptisées de façon contraire à cela, elles ont été baptisées au nom de Jésus-Christ. Tout au long de l'âge de la Bible, même pendant les 300 ans qui ont suivi l'âge de la Bible jusqu'au Concile de Nicée, après, ils ont adopté des dogmes à la place. Quelle différence? Si ce n'est pas révélé, savez-vous que le livre tout entier, la Bible tout entière, est une révélation? C'est comme ça que vous devez connaître la vérité entre ceci et cela. C'est parce que c'est une révélation. Et la révélation doit être exactement avec la parole, pas contraire à la parole. Vous dites, eh bien, ça m'a été révélé. Alors, si c'est contraire à la parole, ça ne vient pas de Dieu. C'est exact. Maintenant, si vous voulez prendre Matthieu 16, 18, Jésus lui-même a dit que toute l'Église, son Église, serait bâtie sur la révélation spirituelle de lui-même, ce qui est la parole. Moi, je te dis que tu es Pierre, et ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux et qui te l'a révélé. Et sur ce roc, maintenant, je sais, nos amis, les catholiques, là, vous dites, elle a été bâtie sur Pierre, Pierre l'apôtre, puis un tel par la succession apostolique. Les protestants disent, elle a été bâtie sur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour être différent, mais prenez simplement ce qu'il a dit. Il a dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et sur ce roc, la révélation spirituelle de ce qu'est la parole. Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne pourront jamais l'ébranler. Sa femme ne sera pas tentée par d'autres hommes. Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne pourront jamais l'ébranler. De même, Abel et Caïn dans le jardin d'Éden. Caïn s'est fait une conception personnelle. Il a dit, bon, écoute, Dieu est un Dieu bon, il est maître de toute la nature, alors je vais aller chercher des haricots et des pommes de terre, je vais aller chercher des fleurs, et je vais lui faire un joli autel. Voilà l'Église, il s'est agenouillé, il a cru Dieu, il a adoré Dieu, il a levé les mains, il a offert ce sacrifice, il a fait tous les gestes religieux qu'Abel a fait. Abel a construit le même genre d'autel. Mais quand Abel a apporté le sien, il a apporté un agneau. Or, Caïn pensait que le sien serait un antidote au péché, que son père et sa mère avaient dû manger des fruits, comme il leur avait été enseigné dans ce jardin. Mais Abel, par une révélation divine, savait que c'était à cause du sang, par une révélation divine. Et la Bible, dans Hébreu, au chapitre 12, au chapitre 11, dit que Abel, par la foi, par révélation, offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste par Dieu. Pas vrai? Amen. Frères, sœurs, je trouve que ça ne peut pas être aussi clair. Voilà toute la chose. Maintenant, quant au mariage et au divorce, vous voyez, il faut que ce soit révélé. Tant que ce n'est pas révélé, vous ne savez pas ce qu'il en est. Mais il a promis qu'en ces derniers jours, qu'en cet âge, tous les mystères cachés de la Bible seraient révélés. Combien savent cela? Apocalypse, chapitre 10, Jésus l'a promis que tous ces mystères cachés au sujet du mariage et du divorce, que tous ces autres mystères cachés seraient révélés au temps de la fin. Maintenant, vous vous souvenez, la voix a dit, « Va, Tucson !» Vous vous souvenez de la lumière mystique dans le ciel, du septième ange qui se trouvait là? Je suis revenu, et il y a eu l'ouverture des sept sceaux. Regardez bien ce qui s'est passé. C'est vrai. Maintenant, avançons encore juste un peu. Mais maintenant, écoutez. Je sais que c'est bientôt l'heure pour vous d'aller manger, mais moi, je mange très bien juste en ce moment. Remarquez. Maintenant, la femme a sa place. Et elle est un joyau. Salomon, cet homme qui a eu 10 000 femmes, ou plutôt qui a eu 1 000 femmes, il a dit qu'un homme qui a trouvé une femme a trouvé une bonne chose. Il dit, une femme bonne est un joyau sur sa couronne, c'est un honneur. Mais une femme injuste, c'est de l'eau dans son sang, ce qui est sa vie. Il a dit, peut-être trouvera-t-on un homme juste entre 1 000? C'est Salomon qui a dit ça. Mais on ne trouvera pas une femme juste entre 1 000. C'est Salomon qui l'a dit. Voyez-vous? Maintenant, remarquez. Mais vous voyez les femmes, vous êtes un joyau. Si vous voulez être un joyau, mais le désir doit venir de vous. Et vous voyez pourquoi la question du mariage et du divorce se posait. Pourquoi Jésus leur a indiqué de retourner en arrière. C'est parce que c'est votre espèce qui a été la cause de tout le péché. C'est pour cette raison que la polygamie et le divorce et tout ont été introduits. Au commencement, il n'en avait jamais été ainsi. Et il n'en sera pas ainsi dans le monde là-bas. Regardez Jacob. De qui sont venus les patriarches? Il avait au moins une douzaine de femmes. Il a épousé 2 sœurs et il a eu des concubines en plus, des femmes avec lesquelles il vivait en concubinage. Et c'est de ces concubines que sont nés ces patriarches. Pas vrai? Vous voyez, il faut que la parole s'enchaîne dans l'harmonie. Oh, j'ai des pages pleines là-dessus. Si jamais un ecclésiastique m'interroge sur le sujet et que nous nous rencontrions, nous pourrions en parler. Mais certainement que s'il a la plus petite parcelle de spiritualité en lui, il peut voir, et si même que c'est la vérité, ça ne fait aucun doute. Une femme bonne, c'est une bonne chose. Ça, je le sais, parce que je connais des vraies femmes. J'ai rencontré des vraies femmes qui sont des femmes authentiques, qui sont aussi vraies que n'importe quel homme. Elle est un produit dérivé, une partie de lui. Et au moment de la chute, il l'a écouté. Il est simplement, elle fait partie de lui. Mais il n'en tient qu'à elle. Elle est faite de façon à pouvoir être impure. Mais il lui est donné le droit de refuser ou d'accepter. C'est contraire à la nature originale du commencement. Mais voilà. Maintenant, il est midi. Alors, je vais passer des points sous silence. Dans les prochaines minutes, je voudrais vous demander quelque chose. Maintenant, souvenez-vous. Je dis ceci uniquement à mon groupe et ceux qui sont à l'écoute au loin. Je dis ceci seulement à mes propres disciples. Ce message s'adresse uniquement à eux. Ce que je vais dire ici, tout ministre de l'Évangile, c'est son, oui, il est le berger de son troupeau, qu'il fasse ce qu'il veut. C'est entre lui et Dieu. Tout prêtre, tout prédicateur, c'est à vous de décider, mon frère. Je parle seulement ici à Jeffersonville, le seul endroit où je dirais ceci, c'est parce que c'est mon troupeau à moi. C'est de ce troupeau que le Saint-Esprit m'a donné la surveillance, et il va m'en rendre responsable. Et mes gens ici sont des convertis qui viennent de partout dans le pays que j'ai conduit à Christ. Et petits-enfants, je suis ici pour vous aider. Et je suis votre ami. Vous allez peut-être penser que je parle contre vous. Je dis ceci pour votre bien. Je vous aime. Et si ce n'est pas vrai, Dieu est mon juge. Vous savez que je vous aime. C'est quelque chose de terriblement fort. Je ne savais pas comment la porter. Que vais-je faire alors qu'il y a des hommes et des femmes dans mon assemblée qui ont été mariés 2 ou 3 fois? De braves hommes, de braves femmes, dans la confusion totale à cause de quoi? D'un faux enseignement. Exactement. Sans s'attendre au Seigneur. Ce que Dieu a uni, qu'aucun homme ne le sépare. Pas ce que l'homme a uni, ce que Dieu a uni. Quand vous avez une révélation directe de Dieu, comme quoi c'est la votre femme et vice-versa, c'est la vôtre pour le reste de votre vie. Voyez. Par contre, ce que l'homme unit, n'importe qui peut le séparer. Mais ce que Dieu unit, qu'aucun homme ne s'y avise d'y toucher. Ce que Dieu a uni, qu'aucun homme ne le sépare. Pas ce qu'un magistrat à moitié ivre, ou quelqu'un d'autre adjoint, ou un prédicateur rétrograde, avec un paquet de credos dans un livre, qui le laisse faire absolument n'importe quoi alors que la parole de Dieu est là devant lui. Voyez, je parle de ce que Dieu a uni. Maintenant, je vais vous dire ceci. Je fais très attention à ce que je vous dis. Je ne veux pas être dur avec vous. Je ne veux pas être dur avec vous, mes frères pasteurs. Je ne veux pas ça. Mais je suis responsable, réalisant que ceci a été remis entre mes mains et je ne peux pas le retenir. Et je ne sais pas comment le dire. Mais je sais que cette bande va... Oh là là, je n'ai qu'à me préparer à ouvrir le bureau parce que ça va venir, voyez. Exactement comme pour la semence du serpent. Mais il a été absolument prouvé que c'était juste. J'ai des coupures ici même de journaux, comme quoi des femmes, à l'heure actuelle, et même dans certains grands diocèses, ont des reproductions de la photo du serpent original qui rampe sur la jambe d'une femme et la façon dont il s'enroule autour d'elle. Elle a toutes sortes de sensations et tout quelque chose qu'un homme ne pourrait jamais lui procurer avec cet énorme serpent qui s'enroule autour d'elle et ainsi de suite. C'est l'exacte vérité. Et ça ne fera qu'empirer sans cesse. Le serpent, il n'en était pas un. Il n'aurait pas pu avoir le rapport sexuel avec elle quand il était un serpent. Mais souvenez-vous, j'ai eu un débat l'autre jour. Pas un débat, c'était seulement un ministre des Assemblées de Dieu. Il disait, vous faites erreur. J'ai dit, c'est possible, j'aimerais que vous m'en parliez. Il s'est mis à m'en parler. Au bout de 2 secondes, il ne s'y retrouvait plus. Et une chose qu'il a dite, il a dit, Frère Branham, où se trouve cette espèce? Dieu a dit, un de chaque espèce. Alors, où se trouve cette espèce que vous disiez qu'elle était entre l'homme et l'animal, que la science n'arrive pas à retrouver maintenant? Où se trouve cet animal? Est-il sur la terre? C'est un chimpanzé? Non, parce que le sang du chimpanzé n'est pas compatible avec celui de la femme. Aucun autre animal n'est compatible avec elle. Non, pas du tout. Pas plus que le sperme d'un homme ne sera compatible avec la femelle. Ça ne marchera pas. Alors, où se trouve l'animal en question? Bon, Dieu a dit que tout produit selon son espèce. J'ai attendu un petit instant, la douceur du Saint-Esprit. L'Esprit a dit, dis-lui que c'est ici. D'abord, j'ai dit, eh bien, peut-être que c'est une espèce différente. Mais, Frère Branham, nous parlons de la parole, n'est-ce pas? J'ai dit, oui, monsieur. Et j'ai dit, bien entendu, ils disent que ces autres, comme les dinosaures et les mammifères, les mammouths plutôt, ce sont des mammifères distincts. Et j'ai dit, c'est peut-être ça. Il a dit, Frère Branham, nous parlons d'une preuve par la parole. Si le péché est ici, alors le péché originel doit être là aussi. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, tu as dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz quand vous paraîtrez devant les hommes, parce que ça vous sera donné à l'instant même. Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Dis-lui qu'il est ici. Exactement, de la même façon que les visions qui sont... J'ai dit, il est ici, sans savoir où. Il a dit, où? Et avant que j'aie eu le temps de réfléchir, il a dit, c'est le serpent. C'est exactement ça. Car il n'est plus une bête. Il a été maudit et condamné à être sur son ventre pour le reste de ses jours. Il est ici. Pas vrai? Et encore aujourd'hui, à cause de cet acte-là, qu'il a commis ce même péché-là, toujours son influence sur la femme avec le sexe mâle, comme ça par exemple. C'est pour ça qu'elle a tous les yeux, tout chaviré et tout, quand elle a ses sensations bien au-delà de ce qu'un homme pourrait faire. Je m'arrête là, parce que nous sommes dans une assemblée mixte. Je vais réunir quelques hommes, nous en reparlerons. J'ai tous les articles, j'ai ça ici même à portée de la main, et je m'étais proposé de vous présenter ça ce matin. J'allais prendre toute la journée là-dessus. Mais je vais terminer en disant ceci. C'est pour mon Église seulement, pas mon Église. Le petit troupeau qui croit en moi et qui me suit, ceci s'adresse à eux. L'autre jour, sachant que lorsque je vous dis quelque chose, ce doit être, ainsi dit le Seigneur, alors j'avais les passages de l'Écriture tels qu'il me les avait révélés. Mais Seigneur Dieu, qu'est-ce que je peux dire à cette assemblée? J'aurai des séparations. Des hommes seront assis devant leur maison, dans la cour, partout. Dois-je la quitter? Les femmes, dois-je quitter mon mari? Qu'est-ce que je dois faire? Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Quelque chose m'a dit, va là-bas sur la montagne et je te parlerai. Et pendant que j'étais là-haut sur la montagne, je ne savais pas qu'en bas à Tucson, ils pouvaient me voir. Mais même les professeurs ont fait sortir les enfants, ma petite fille et les autres de leur classe. Et ils disaient, regardez là-bas sur la montagne. Il y a un nuage couleur d'ambre comme du feu qui monte et descend dans les airs, là. Qui monte et qui descend. Madame Evans, êtes-vous ici? Ronnie, es-tu là? En revenant, je suis passé à la station-service, ce jeune homme était au poste d'essence, le poste d'essence des Evans, là-bas. Et je ne savais pas que ce garçon allait dire. Et voilà qu'il m'a pris par surprise. Il a dit, « Frère Branham, vous étiez sur la montagne là-bas, n'est-ce pas? » J'ai dit, « Qu'est-ce que tu veux dire, Ronnie? Non. » Voyez, pour voir sa réaction. Il y a des fois, quand il arrive des choses, je ne le dis pas aux gens. Ce qui se passe, vous voyez, tant de choses arrivées que ça devient quelque chose de banal pour vous. Je n'en parle simplement pas aux gens. J'ai dit, « Ronnie, qu'est-ce que tu... » Il a dit, « Je peux vous montrer l'endroit exact où vous vous trouviez. » Il a dit, « J'ai appelé maman, elle restait là à observer ce nuage-là qui montait et qui descendait. » J'ai dit, « Ça ne peut être que Frère Branham qui est là-haut, quelque part. C'est Dieu qui est en train de lui parler. » Et les gens de toute la ville l'ont regardé. C'était une journée claire, il n'y avait aucun nuage nulle part. Et ce gros nuage couleur ambre était là qui descendait comme un entonnoir et qui remontait en s'évasant. Mes amis, et après je termine, vous pourrez repartir avec ceci. C'est à ce moment-là que ceci m'a été révélé, ce que je vais vous dire à l'instant. Alors ne le manquez pas. Maintenant, je parle uniquement à ceux qui nous suivent, ceux qui me suivent et qui suivent ce message. Uniquement, pas à ceux du dehors. Rendez-moi témoignage devant Dieu. Ça s'adresse uniquement à ce groupe-ci. Maintenant, nous sommes dans cette confusion à cause d'une théologie mal interprétée. Pas vrai? C'est à cause de ça que vous, les femmes, vous êtes mariées la deuxième fois et vous, les hommes, à cause d'une théologie mal interprétée. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qu'il m'a dit. Et si on a posé la question à Dieu, notre Créateur, quand il était ici sur la terre, Jésus-Christ, et quand son prophète libérateur est venu, Moïse, en Égypte, pour faire sortir les enfants d'Égypte, les emmener dans le pays promis. Et Jésus a dit ici que Moïse avait vu les gens dans cet état-là et qu'il leur avait permis la lettre de divorce parce que la situation était ce qu'elle était. Moïse s'est retrouvé comme ça alors qu'il lui permette. Dieu a permis à Moïse, ce prophète qui avait été envoyé aux gens, de leur accorder cette lettre de divorce. De même, dans 1 Corinthiens, au chapitre 7, les versets 12 et 15, dans le Nouveau Testament, Paul, qui s'est retrouvé face à la même situation dans l'Église et qui a dit ceci, « Ceci, c'est moi, pas le Seigneur. » Pas vrai? À cause du problème du divorce. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais Moïse a reçu cette permission et Dieu l'a acceptée comme si c'était juste. Paul aussi a eu ce droit quand il a trouvé l'Église dans cet état-là. Maintenant, croyez que ceci est vrai et croyez que cela vient de Dieu. Et selon la confirmation de son nuage et de son message qui m'a amené jusqu'ici, est-ce que Dieu, sur la montagne, ne me permettrait pas de faire la même chose, de vous permettre de continuer tel que vous êtes et de ne plus le faire? Allez avec vos femmes et vivez en paix, car l'heure est tardive. La venue du Seigneur est proche. Nous n'avons pas le temps de briser ces choses. Ne vous avisez surtout pas de recommencer. Je parle uniquement à mon assemblée. Mais si vous êtes marié, et Dieu m'en a rendu témoignage sur la montagne que je pouvais dire ceci, c'est une révélation surnaturelle à cause de l'ouverture des sept sceaux et que c'est une question qui se pose dans la parole de Dieu. Laisse-les continuer tels qu'ils sont et qu'ils ne pêchent plus. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est exact. Il n'en était pas ainsi. Et il n'en sera pas ainsi à la fin. Mais dans les conditions de la vie moderne, en tant que serviteur de Dieu, je ne m'appellerai pas son prophète. Mais je crois que si je n'ai pas été envoyé dans ce but, peut-être suis-je en train de préparer le terrain pour celui-là quand il viendra. Donc dans les conditions de la vie moderne, je vous ordonne de rentrer chez vous avec votre femme maintenant. Si vous êtes heureux avec elle, vivez avec elle. Élevez vos enfants en les instruisant selon Dieu. Mais que Dieu soit miséricordieux envers vous si jamais vous recommencez. Enseignez à vos enfants à ne jamais faire une chose pareille et élevez-les en les instruisant selon Dieu. Et maintenant que vous êtes dans l'état où vous êtes, partons maintenant à cette heure tardive du temps du soir où nous vivons et courons vers le but de la vocation céleste en Christ, là où toutes choses seront possibles. Jusqu'à ce que je vous revoie ce soir, que le Seigneur vous bénisse alors que nous prions. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Nous te donnons la louange. Tu es le même grand Jéhovah qui a permis à Moïse, ce serviteur, qu'est-ce qu'il allait dire à son peuple? Alors, ô Dieu, tu lui as permis d'accorder une lettre de divorce. Paul, le grand apôtre qui a écrit le Nouveau Testament, comme Moïse avait écrit l'Ancien. Moïse a écrit les lois et la dispensation des lois. Il y a beaucoup de prophètes dont les paroles ont aussi été injectées là, mais Moïse a écrit les lois. Et tu lui as permis d'écrire une lettre, qu'ils écrivent une lettre de divorce à cause de la dureté de leur cœur. Le grand saint Paul, qui a écrit le Nouveau Testament, lui aussi, il a pu affirmer cela, que je parle en fonction des circonstances, c'est moi, pas le Seigneur. Il en est de même aujourd'hui, Seigneur Dieu, à la fin du monde. Alors que nous sommes ici, sous la miséricorde de Dieu, sachant que bientôt nous aurons des comptes à rendre dans sa présence. Et comme tu as fait tant de choses, Seigneur, devant ces gens, j'en suis sûr qu'ils vont s'accrocher à ceci comme si cela venait de toi. Et pour rendre témoignage ici aujourd'hui, il y a beaucoup assis ici qui ont même vu ce signe là-haut sur la montagne, là où les anges du Seigneur sont venus dans ce tourbillon, où les sept anges sont venus, où la révélation des sept mystères a été dévoilée. Il y a eu ce même ange dans la même direction, sur la même montagne, le jour où ceci a été révélé. Oh Dieu, je prie que les gens rentrent chez eux en étant reconnaissants de ce que Dieu leur a accordé cette grâce. J'ai exprimé ceci, Seigneur, uniquement avec ta permission. Et si je le dis, c'est uniquement avec ta permission, Seigneur, que les gens soient tellement reconnaissants qu'ils n'essaieront plus jamais de commettre ce péché et qu'ils n'essaient jamais de commettre aucun péché, mais qu'ils t'aiment de tout leur cœur. Seigneur, rends ces familles heureuses et puissent-ils grandir et élever leurs enfants en les instruisant selon Dieu. En effet, mon message qui me tenait à cœur a été transmis, Seigneur. J'ai fait tout ce que j'ai pu, et Satan m'a combattu pendant des semaines et des heures d'insomnie. Mais maintenant, j'ai commandé, Seigneur, à ces gens d'étudier cela et de repartir vivre pour toi. Accorde-le, Seigneur, ce n'est plus sur mes épaules maintenant, ils sont entre tes mains. Je te prie de les bénir. Bénis ces mouchoirs, Seigneur, qu'on vient de poser ici pour les malades et les affligés. Que ce soir soit une des plus glorieuses, des plus puissantes soirées, afin que tout soit guéri. Accorde-le, Seigneur, bénis-nous tous ensemble. Puissions-nous aller en paix, heureux et dans la joie. Parce que le Dieu de la création nous a montré ce qu'il en était au commencement et qu'il nous a accordé de nouveau dans la confusion où nous trouvons sa grâce en ces derniers jours. Ô Dieu grand et éternel, combien nous t'en remercions et que nos cœurs soient tellement heureux que nous n'aurons plus jamais aucun désir de pécher contre toi. Au nom de Jésus, amen. Pourquoi ne l'aimeriez-vous pas?
just my salvation on Calvary. I say it now so that
je le dis maintenant pour que les frères dans le ministère comprennent. Ceci s'adresse uniquement à ceux qui suivent ce message. Oh, êtes-vous heureux? Je vous ai dit la vérité, ainsi dit le Seigneur d'un bout à l'autre. Maintenant, levons-nous et levons les mains pendant que nous le chantons de nouveau. Je l'aime à cause de sa grâce. Je l'aime à cause de sa miséricorde. Je l'aime à cause de sa parole. Et la parole du Seigneur est venue au prophète.